Salut à toutes et à tous, dimanche soir, 19h, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la petite chaîne qui monte, déjà plus de 41 000 abonnés en très peu de temps. Alors je suis vraiment très content de recevoir l'ami Patrick Edry, voilà. On va parler de choses différentes peut-être que d'habitude, hein, parce que aussi la Géopolitique Profonde est là pour donner la parole à tout le monde. Alors, elle est là pour donner la parole à Jacques Beau. Et quand je reçois Jacques Beau, ben, moi, je le laisse dérouler. Je ne suis pas là pour le mettre aussi en difficulté. Et ben, c'est pareil pour Patrick Edry. Je suis là aussi pour l'interviewer de façon vraiment neutre et de façon journalistique. Et justement, si je laisse dérouler l'un, je dois laisser dérouler l'autre. Et c'est comme ça, parce que c'est ça la liberté d'expression. Alors, on peut être d'accord avec l'un, on peut ne pas être d'accord avec l'autre, mais on doit laisser parler les uns et les autres. Pour moi, la liberté d'expression, ce n'est pas juste laisser parler les gens avec lesquels on pourrait ou ne pas être, on pourrait être d'accord. Il faut laisser parler tout le monde, même si peut-être parfois les auditeurs diront « Ah, ben attends, je ne suis pas d'accord avec toi, mon Mike. » Ben, ce n'est pas grave. On donne la parole à tout le monde. Moi, je ne suis pas l'AFP ou France Télévisions. Nous, ici, on est à Géopolitique Profonde et on donnera la parole à Patrick Edry parce qu'il a un message excessivement intéressant et les gens intéressants, eh ben, ils viennent chez nous. Salut, cher Patrick, comment tu vas ?
Bonjour, Mike. Bah, merci pour cette intro. Hein. Très sympathique, ça fait plaisir. Tu commences fort là, en disant que tu avais
quelques temps quand même.
Le mythomane Jacques Beau.
On se connaît quand même depuis quelques temps. Et voilà, donc bon, je sais que tu es des nôtres. Enfin, quand je dis des nôtres, c'est-à-dire du courant de la droite, conservatrice. Bon, alors, par rapport au reste de la droite conservatrice qui habite en France, tu as quand même pas la même opinion sur l'Ukraine et la Russie. Alors que tu es d'accord sur le conservatisme, tu es d'accord d'être contre le pass, contre les injections, contre les masques et tous ces trucs. Mais là-dessus, là-dessus, tu as un avis différent. Comment ça fait d'avoir un avis différent justement par rapport à son propre camp ?
Ah, c'est très décevant parce que si tu veux, moi, il y a... En fait, moi, je suis un chef d'entreprise. Hein. Mon job, c'est de faire des analyses et des analyses prédictives, notamment, en fait, pour expliquer aux entreprises ce qui se passe et ce qui va se passer. Et ma particularité, c'est que bon, je fais ces analyses, ces études, et en même temps, après, je vais mettre en œuvre leur stratégie. Donc, je suis à la fois, je réfléchis, et à la fois, après, j'ai les mains dans le cambouis. Donc, je dis pas n'importe quoi, ce que je sais, c'est moi qui vais me le taper après. Et donc, si tu veux, normalement, même si je suis plutôt de droite, je rentre pas en politique, j'ai pas à aller dans la sphère publique. Et puis, à 5 ans, je me suis rendu compte que les journaux mainstream, Le Monde, surtout, beaucoup Le Monde, beaucoup l'AFP, France Inter, France Info, France 2, France 3, L'Express, enfin, je pense que tout le monde y est passé.
Enfin, tout le monde, quoi.
Ouais, tout le monde ont inventé des informations, mais vraiment de A à Z sur la Pologne. Donc, je me suis dit, c'est normal, c'est parce que c'est un des rares pays non progressistes, et donc, ils tapent dessus, enfin, je le raccourcis, mais globalement, c'est ça. Et puis, avec la guerre en Ukraine, je me suis rendu compte que ce qu'on appelle la réinfosphère, si tu veux, les médias mainstream sur la Pologne, c'est à peu près 90% d'informations fausses ou manipulées sur la Pologne. Mais vraiment, c'est assez impressionnant. Et là, je me rends compte avec la réinfosphère, c'est la même chose. C'est-à-dire que 90% d'informations sur l'Ukraine sont fausses. Parce que celles que donne la réinfosphère, celles que donne Jacques Beau, celles que donne... comment il s'appelle, Castelno, Pozzo di Borgo, tous ces gens-là, tous ceux qui ont un nom, Filippo, Asclino, tous ceux qui ont un nom qui rime avec Colabo, en gros, mentent, non, mais c'est vrai, j'y peux rien, mentent sur l'Ukraine, mais vraiment, c'est des informations, à chaque fois que je les vérifie, elles sont fausses, mais fausses, elles ont été inventées, soit manipulées, les images retouchées, mais c'est vraiment vrai, hein. Ils retouchent les images de ce qu'ils publient. Ça fait vraiment très peur. Et puis, ce qui est incroyable, c'est que toute la droite reprend le narratif russe, enfin le narratif même soviétique, par exemple, sur la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que la Russie, en fait, depuis le 15e siècle, depuis Ivan le Terrible, a réinventé complètement son histoire, a fait des faux documents. Ivan le Terrible a fait croire que la Russie, a fait des faux documents pour faire croire que la Russie, mais c'est vrai, hein, a fait pour faire croire que la Russie était héritière de l'Empire byzantin. Après, Pierre Ier a effacé tous les documents des pays qu'il a assujettis pour faire comme s'il n'avait pas d'histoire, en fait. Et ensuite, Catherine II, quand elle s'est rendue compte que, en fait, l'héritage russe, les racines de la Russie, c'était l'Empire, c'était en fait la Horde d'Or, donc les Mongols, qui avaient créé la Russie, et que en fait toute la tradition historique russe était orale. Elle a commencé à réécrire complètement l'histoire russe. Et après, Staline a fait la même chose. Et aujourd'hui, comment il s'appelle, Poutine, fait aussi la même chose quand il te dit que l'Ukraine n'est pas une nation, elle fait partie de la nation russe. Mais même Staline n'avait pas osé le faire, même Catherine II, tout le monde jusqu'à présent avait admis qu'il y avait une nation ukrainienne. C'est la première fois, en fait, qu'on nie l'existence de la nation ukrainienne. C'est Poutine qui le fait. Et à chaque fois, ils réécrivent l'histoire comme ça. Et ce qui est incroyable, c'est que la droite, actuellement, reprend tout ce narratif complètement faux, et souvent un narratif qui vient des soviets en plus. C'est assez impressionnant.
Alors, pour en revenir à la Pologne, comment ça se fait déjà que je sais que c'est à cause de ta femme que tu vis en Pologne, mais bon, d'un côté, si tu ne te plaisais pas, tu aurais pu dire, écoute, chérie, t'es gentille, je retourne en France. Comment ça se fait justement que tu es en Pologne et que tu es resté en Pologne?
Donc, je suis en Pologne, comme tu l'as dit, j'ai rencontré ma femme, et ma femme, elle est très, ne voulait surtout pas partir de Pologne. Elle connaît très bien la France, hein, elle est francophone, elle parle elle a un français courant total. Mais elle, la France ne convenait pas vraiment à son mode de vie, elle est très catholique. Et donc, c'est quand elle a vu les églises en France, qu'il n'y avait personne dedans, ou quand il y avait des personnes, c'est plutôt des personnes âgées, que les prêches étaient très politiques et pas trop religieux. Très axé, et puis très politique, très à gauche quand même en général, que la population n'était pas forcément très sympathique toujours. Non, elle n'a pas voulu, elle a préféré rester en Pologne parce que c'est là où elle vit. Et donc moi, un peu, je l'ai suivi, j'ai accepté de vivre en Pologne. Je m'y sens plutôt bien, tu sais, les Polonais sont quand même assez proches. Je trouve des Français, c'est un peuple slave, mais qui a ce côté quand même, comme nous, assez latin. Alors, on est différent, bien sûr, mais on n'est pas aussi différent qu'on peut l'être, par exemple, avec les Allemands.
Ouais. Occidentaux, plutôt.
Ah oui, très occidentaux. Ah oui, ça n'a aucun rapport avec les pays slaves orthodoxes. Oui, il y a deux types de pays slaves. Hein. Il y a les pays slaves orthodoxes, où là, il y a beaucoup de paternalisme, où on aime un peu les dirigeants forts. Et puis après, tu as les pays slaves catholiques, plutôt. Et là, ce sont vraiment tous, ils sont très proches de la mentalité. Ce sont des occidentaux, en fait, tout simplement.
Bah oui, c'est comme la République tchèque, la Slovaquie, ouais, c'est un peu...
La Hongrie, oui. Enfin, voilà. La Hongrie, c'est pas slave.
Ouais, c'est pas slave, mais c'est un peu la même mentalité, quoi. C'est-à-dire
la Croatie, oui. La Croatie aussi, oui.
Tu n'avais pas l'impression d'être en total décalage avec la France?
À part la nourriture, non, pas du tout. Mais c'est vraiment la nourriture qui est différente, oui, oui. C'est une nourriture qui est très Europe centrale, c'est du porc, des pommes de terre et du chou, quoi, en gros.
Et puis, tu n'as pas aussi, en Pologne, de grands rapports, j'imagine, avec l'État, comme en France.
Ah oui, c'est vrai que là, tu vois, par exemple, moi, j'ai donc avec la disparition d'un certain nombre de parents, j'ai hérité d'une petite maison. Et donc, maintenant, je dois payer toutes les taxes dessus. Mais je suis affolé. Je me dis, mais c'est quoi ça? Je vais te dire, franchement, j'ai eu 1 000 euros d'impôts, je crois. 1 000 euros d'impôts fonciers, et comme je suis étranger, enfin comme j'habite à l'étranger, je dois payer 680 d'impôts de taxes d'habitation. 1 600 euros. Enfin, ça n'existe pas en Pologne, t'es pas taxé comme ça.
Ni de taxes d'habitation en Pologne, je confirme.
Il y en a une, mais ça doit être, je sais pas, moi j'ai
un ou deux. Moi j'ai un appartement en Pologne, je ne paye pas de taxes foncières. Hein.
Oui, mais si tu avais des terrains, tu paierais 400 zloty ou je sais plus, 100 zloty.
Enfin, c'est 100 euros. Rien, quoi. C'est moins de 100 euros.
Même pas, c'est vraiment juste de dire qu'on te réinscrit chaque année. Mais non, mais c'est vraiment hallucinant. La France, oui, c'est vraiment c'est un pays. Enfin, moi, quand je l'ai quitté il y a 20 ans, c'était déjà un pays très administré, mais ça devient de plus en plus un pays soviétique.
Et d'ailleurs, sur géopolitique profonde, on milite aussi pour. En tout cas, ceux qui sont les patrons de géopolitique profonde, et moi j'en suis pas, militent aussi pour l'expatriation. Et d'ailleurs, toi, en tant qu'expat, tu te dis quand même que tu vis mieux aujourd'hui en Pologne que tu pourrais vivre en France.
Je sais pas, parce que quand je vis en France, je vois quand même que c'est un pays très riche. Hein, malgré tout, on peut dire ce qu'on veut. Le pays est quand même.
Si tu étais parisien.
Si j'étais parisien et riche, oui, je vivrais en France. Mais si j'étais pas riche, je ne vivrais pas à Paris, non.
Si tu étais François Pinault, parce qu'en effet, en France, on vit bien quand on est François Pinault. Mais quand on est la classe moyenne ou moyenne supérieure, là, on vit moins bien.
Faut pas exagérer non plus, on crève pas de faim en France. Hein. Quand tu sais, je viens de temps en temps en France, je vois que les gens quand même vivent très bien. Tu sais, le salaire moyen, c'est comme 2 300 euros. La Pologne, ça va être à peu près 1 000 euros le salaire moyen net. Hein. Je parle de salaire moyen net, ça va être 1 000 euros. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont moins chères, le coiffeur est moins cher, des choses comme ça. Mais une voiture coûte aussi cher en Pologne qu'en France. Les vêtements de marque coûtent aussi cher qu'en France. Netflix coûte aussi cher qu'en France. Enfin, tu vois, tous ces genres de choses. Il y a quand même à peu près 2/3 des produits que tu peux acheter qui coûtent aussi cher qu'en France. Après, il y a le dernier tiers qui coûte, je sais pas, 2 fois moins cher qu'en France, peut-être.
Ouais. Oui, mais sur les 2300 euros, si tu as la malchance d'être célibataire, tu vas payer un mois quasiment de loyer en impôts. Le loyer en France, c'est quand même un peu plus compliqué. Les taxes et les impôts, enfin, les taxes foncières, habitation, ça va terminer. Enfin, je veux dire, tout l'à côté, en réalité, est quand même vachement plus cher en France, malgré tout.
Oui, 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 vachement plus cher, oui, oui, plus cher. Paris est extrêmement cher, ça, c'est certain. Après, dans d'autres villes, ça va à peu près, mais bon, oui, non, je suis d'accord.
Par exemple, j'ai Rabolio Garen qui nous dit 2 300 euros et il met un smiley rire. Parce que j'imagine que ce monsieur ne doit pas gagner 2 300 euros.
Bah, demande-lui, tiens, j'aimerais savoir combien il gagne. Beaucoup de gens se plaignent, disent, oh, on meurt de faim.
Cher Rabolio Garen, dites-nous combien vous gagnez. Voilà, dites-nous. Parce que tu sais que moi j'ai une statistique que j'ai eue de la part d'économiste. C'est que dans les années 60, tu avais 1% de smicards en France. Voilà. Et aujourd'hui, en 2022, c'est 20%. C'est quand même pas rien comme statistique.
Mais regarde, ouais, mais d'accord, mais il est à combien le SMIC actuellement?
Ben, le SMIC, il est à peu près 1300 euros.
C'est pas 1500?
Ah non, 1500 brut alors. Mais tu enlèves toutes les cotisations derrière.
Voilà. Il faut voir dans les années 60, le SMIC, à quoi il équivalait en pouvoir d'achat aussi, hein, tu sais.
Moi je vais te dire, dans les années 80 ou 90, quand tu gagnais 10 000 francs par mois, tu pouvais être propriétaire dans Paris. Lorsque tu gagnes 2500 euros, c'est-à-dire 5 000 francs de plus par mois, tu ne peux pas être propriétaire à Paris.
Oui, mais Paris, c'est vraiment très spécial. C'est-à-dire que tu as tous les riches qui se sont concentrés à Paris et Saint-Tropez, en gros. En gros, tu as Paris, Saint-Tropez. Paris, les gens, ils vivent, ils travaillent. Enfin, les riches, ils vivent, ils travaillent. Et après, ils vont passer leurs vacances à Saint-Tropez. C'est les mêmes prix au mètre carré. Donc, ces gens-là ont exclu complètement toute la classe ouvrière, les classes moyennes supérieures même, ont été exclus par les prix à Paris. Donc, tu ne peux pas comparer à Paris quelqu'un. Effectivement, tu ne peux plus vivre à Paris.
Mais si je suis un Polonais moyen, je peux vivre à Varsovie ou à Cracovie.
Oui, bien sûr, oui, oui, oui. Ah, mais oui, c'est sûr. Oui, mais bon, c'est pas fondamental non plus. Enfin, je suis d'accord avec toi. Oui.
Cracovie, c'est l'équivalent de Varsovie quasiment. Bon, peut-être même mieux même.
Oui, moi je préfère Cracovie, mais bon.
Oui. Ouais, c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a quand même un différentiel. C'est-à-dire que tu as en fait une classe moyenne française, il faut le dire. Parce que nous, on parle aux classes moyennes. Moi, je ne parle pas, évidemment, tu vas me parler d'Mbappé ou je ne sais pas qui, tu vois. Bon, bah, évidemment. Mais quand tu es riche, tu vis bien partout, en réalité. Mais moi, je parle des classes moyennes. Et on sent… moi, je veux dire, je me rappelle quand j'étais môme en Pologne et ado, je voyais la Pologne dans les 90. Et je le vois aujourd'hui, je sens une évolution. Alors que lorsque j'étais ado en France… je vois une forme d'affaiblissement.
De la France, ah oui, un affaiblissement oui. De la France, oui, c'est... Oui, un certain affaiblissement de la France, mais si tu veux, il y a un discours quand même ambiant qui nous fait croire qu'il va y avoir des révolutions en France, que les gens ne sont pas bien, qu'ils meurent de faim. Il n'y a personne qui meurt de faim en France, il faut atterrir. On est d'accord déjà là-dessus. Oui, donc sûr. Ensuite, il y a des gens qui sont, il y a des problèmes de soins. Il y a des gens qui vont mourir par exemple de comment dire au niveau parce qu'ils ont faute de soins. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes de logement, mais il y a personne qui meurt non plus de faim en France. On nous a dit toute l'année qu'il allait y avoir une révolution en France.
Alors finalement, voilà,
nous, il y a pas de révolution en France.
Rabolio Garen qui nous dit dans le BTP, je gagnais 1 600 euros net, 40 heures, chef d'équipe et maître d'apprentissage.
C'est-à-dire bah, déjà, c'est un menteur, parce que c'était oublié il y a 20 ans. Quoi. Parce que je t'assure qu'un maître, un chef d'équipe dans le BTP, il ne gagne pas 1600 euros, il gagne 2200 à 2400 euros net. Non, non, il te dit n'importe quoi, le gars. Là.
Bon, il a mis ça au passé. Hein.
Bah, quelle année, quoi? 99, peut-être, oui. Enfin, de 2000 plutôt, 2001, vu que l'euro, ce n'était pas en 99.
Bon, je ne remets pas en doute la parole des gens. Hein.
Ouais, non, mais moi, je connais très bien les salaires du BTP, donc il dit n'importe quoi, je te le dis tout de suite. Ouais.
Ah, bon, ben, monsieur Garag, vous dites n'importe quoi.
Non, non, mais là-dessus, il ne va pas m'avoir sur les salaires du BTP, sur les salaires des chauffeurs, etc. Je les connais tous.
Alors, j'ai Mickaël qui me dit un ambulancier en province gagne 1250 euros.
Eh bien, il faut qu'il change alors de job, qu'il aille dans le privé. Il va gagner 2000 euros. Hein.
Bon. J'ai encore Cali qui me dit chef d'équipe 1600 brut.
Mais où?
Dans quoi? Bon, chef d'équipe, je ne sais pas. Bon. Alors,
Non, mais c'est pas du tout. Non, mais il faut se rendre compte que le marché de l'emploi sur des chefs d'équipe, surtout dans les métiers comme le BTP, c'est tellement en tension qu'un gars qui actuellement, aujourd'hui, gagne 1600 euros net en tant que chef d'équipe dans le BTP, mais qu'il s'en aille tout de suite, qu'il aille à côté, on va le prendre à un minimum 2200 euros. Il va voir le voisin, il est à 2200 euros, je t'assure. Hein.
Bah écoute, je mets pas en doute la parole des gens quand même. Ils me disent des choses, voilà, je te les lis, voilà, je te les lis. Après,
j'ai tout le temps des chefs d'entreprise au téléphone et ils galèrent pour trouver des chefs d'équipe, etc. Alors moi, je leur demande, mais bon, ouais. C'est parce que les salaires sont
trop bas. Par exemple, Nico Rivel peut me dire, je suis carrossier, 24 ans d'expérience et je gagne 1750 euros.
Bah écoute, moi, tous ces gens-là, on va faire un truc alors. Je vais leur trouver un job à plus cher. On fait comme ça. J'envoie leur CV, me disent quelle est leur ville. Et moi, je leur trouve parce que moi, j'ai les chefs d'entreprise qui cherchent des gens comme ça, des carrossiers, des soudeurs, des maçons, des peintres, etc. Et à chaque fois, moi, c'est simple. Quand le chef d'entreprise me dit, mais bon, moi, j'arrive pas à trouver, les gens ne sont pas formés, ils ne veulent pas bosser.
Oui, mais est-ce que c'est à Paris?
Attends, moi, je leur dis, mais attendez, c'est parce que vous les payez mal, monsieur. Il faut les payer plus, surtout avec l'inflation. Si vous continuez à payer vos salaires, mais attendez, moi, j'ai augmenté mes salaires. Je lui demande, vous êtes à combien? Mais tous, ils sont au-dessus de 2000 euros. Dès que quelqu'un est bien formé et au moins à 5 ans d'expérience, il n'y a plus personne qui embauche à moins de 2000 euros.
Bah écoute, c'est pas ce que le chat dit là. J'ai encore Rabolio Garen qui me dit maçon carreleur dans le traditionnel. Alors je sais pas, est-ce que les gens de chez l'entreprise.
Ils m'envoient leur CV, non, il faut faire
les gens vendent.
Tu fais un chat à part, ils m'envoient leur CV, moi je leur trouve un job tout de suite à ces prix-là. Hein.
Bah écoutez, suivez Patrick Emery sur Twitter, il vous trouve un job.
Oui, suivez-moi.
Il vous fait traverser la rue.
C'est pas ça, mais non, mais il y a le gars, soit le gars, il habite dans, je sais pas moi, dans un endroit où il y a 10 maisons et donc il a que 10 maisons à carreler, peut-être, oui, mais dans n'importe quelle ville, même de province, il gagnera plus.
Bah écoute, chef d'équipe électricien, 1900 euros brut.
Brut?
Oui, c'est-à-dire que tu l'enlèves 25%.
Oui, je sais, oui, oui. Bah 25%, ça fait combien? Alors, tu lui enlèves 25%, ça lui fait combien?
Ça lui fait 1500 euros de moins, quasiment.
Donc, il est un chef d'équipe dans l'électricité, il est payé quasiment au SMIC.
Bah, écoute, je te lis ce que les gens me disent. Moi, ouais, je ne connais pas les prix dans ce genre.
Si tu veux, moi, j'ai parce que je suis contacté tous les jours, parce que moi, ça m'en fait chier même. Je leur réponds par gentillesse. Si j'ai plein de chefs d'entreprise qui me contactent, voilà, j'ai besoin de Polonais, de carreleurs, d'électriciens, etc. Je leur dis, mais écoutez, les Polonais, maintenant, ils gagnent bien leur vie, ils ne vont pas se déplacer en France, sauf si vous les payez vraiment bien. Ils me disent, ah oui, mais c'est combien vraiment bien? Je leur dis, bah, écoutez, à moins de 2500 euros, ils ne seront pas de Pologne, il ne faut pas de problème. Je les emploie tout de suite.
Mais regarde. J'ai Seb Deponche, encore un autre qui me dit, j'étais ouvrier spécialisé dans le montage, fabrication de meubles de pharmacie, 1250 euros il y a 8 ans, plus de 5 ans d'expérience à l'époque. Les gens, ils te disent…
C'est un peu différent, parce qu'en fait, non mais là, le gars, c'est possible, parce qu'il dit l'autre, c'est, enfin le dernier, c'est possible, parce que c'est pas, faut pas avoir une super formation, c'est en gros, c'est la formation IKEA, quoi, hein, pour faire ce qu'il faisait.
Bon, ben, écoute, moi, je ne mets pas en doute ce que disent les gens et je ne méprise pas les métiers des gens, hein, parce qu'il faut de tout.
Ben moi non plus, pourquoi tu dis ça?
Bon, alors, non, mais je le dis tout simplement. Alors, on va parler de la Pologne, et parce que toi aussi, tu es militant sur le débunkage des fake news du Monde, Delacroix, qui explique qu'en Pologne, on fait de l'anti-LGBT, qu'il y aurait des villages anti-LGBT. Est-ce une réalité ?
Des villages, ah oui, des zones anti-LGBT.
Voilà, des zones ou des villes ou des quartiers ou je ne sais quoi exactement.
Non, est-ce une réalité ? Non, non, c'est une invention totale du Monde, de l'Express, de, comment il s'appelle, le magazine gay, là, il y a un magazine...
Têtu ?
Têtu, voilà. Il y avait qui encore ? Il y a Libération qui a inventé ça. Bah oui, moi j'ai ça, attends, je vais te les montrer. Je les avais gardés pour toi, justement. T'as l'Express qui disait les LGBT peuvent être légalement discriminés dans certaines zones. Le Monde qui dit « La Pologne a déclaré des zones interdites aux LGBT ». Donc vraiment, ça va loin, quand tu imagines si c'est vrai. C'est complètement anormal si c'est vrai. Tu as le ministre, enfin non, le secrétaire d'État Clément Beaune, qui disait la même chose, qui disait « Oui, en Pologne, il y a des zones où les LGBT n'ont pas le droit de rentrer dans les cafés, n'ont pas le droit d'aller dans les magasins, sont interdits en fait de pouvoir y entrer ». Bon, déjà, comment tu sais que quelqu'un est LGBT ? Mais bon, c'est pas grave. Même si c'était vrai, ce serait très, très grave. Et il avait même dit, mais moi, quand j'irai en Pologne, j'irai visiter ces zones. Mais en fait, ces zones n'existent pas du tout. Donc, quand il est venu en Pologne, il était vachement emmerdé parce qu'il ne pouvait pas les visiter, elles n'existaient pas.
Donc, mais, il a commencé d'où ça sort, ces rumeurs ?
Ah bah, en fait, c'est tout con. C'est, je ne sais pas si vous allez le voir.
Allez-y,
vous le voyez
vas-y.
Bien, ça ?
Oui.
En fait, c'est un militant LGBT et il a créé des panneaux, tu vois, « Strefa volna do LGBT ». Donc, ça veut dire des espaces libres sans LGBT. Il mettait LGBT free zone et il mettait après en allemand aussi. Et donc, il a été dans des communes qui avaient signé des sortes de déclarations, je t'expliquerai après, et il posait ça sur les communes, sur les panneaux d'entrée des communes. Tu sais, quand tu as à l'entrée des communes, tu as toujours le nom de la commune. Et donc, lui, il posait ces panneaux-là et il prenait en photo. Et après, les médias ont récupéré ces photos et ont dit, vous voyez, c'est les pays, c'est les villes où c'est interdit aux LGBT. Alors que c'est juste une fake news. C'est le gars, il a inventé, c'est un militant LGBT, il a inventé ça. Parce qu'il y avait en fait des communes en Pologne qui ont signé des déclarations où ils disaient que, en fait, ils refusaient de donner de l'argent aux associations qui promouvaient les théories du genre et la sexualisation des enfants. Donc ils garantissaient, quand ils étaient élus, aux parents qu'eux ne donneraient pas d'argent aux ONG. Qui ferait la promotion de la sexualisation des enfants dans les écoles, ou qu'il ferait la promotion des théories du genre dans les écoles. Donc c'est juste ça, elles ont juste dit qu'il y a certaines communes, mais ça n'a aucun rapport avec l'État, avec la loi. C'est juste des communes qui ont signé des déclarations disant bah nous, on refuse qu'on apprenne aux enfants des choses qui vont contre les convictions, exactement, des choses qui vont contre les convictions de leurs parents. À l'école. Ça ne nous regarde pas. Les parents inculquent la religion, ce qu'ils veulent à leurs enfants. Ce n'est pas à la commune, ce n'est pas à l'État de dire ce qu'on doit inculquer aux enfants et donc encore moins aux ONG. Et donc, on ne va pas les financer. C'est juste ça. Et tu as donc après Le Monde. Attends, mais c'est incroyable parce que tu as Le Monde qui a dit ça. Tu as Libération qui a dit ça. Tu as L'Express qui a dit ça. Tu as tous les gens à la télé, tous les chroniqueurs qui l'ont repris. Mais tu as aussi donc Clément Beaune qui a dit qu'il y avait des zones comme ça. Il est allé en Pologne. Il a dit ah, mais je vais aller visiter ces zones. Il n'y en avait pas. Donc, il a dit que le gouvernement lui interdisait d'aller dans ces zones. Et le gouvernement polonais a réagi très vite. Il a dit, le jour même, lui a dit, alors qu'il était en Pologne, il a dit, mais va où tu veux, va visiter les zones que tu veux, va dans les villes que tu veux, tu es dans l'Union européenne, tu es libre d'aller où tu veux. Et bien sûr, il a rien fait, il est reparti tout de suite parce qu'il avait rien à visiter. Mais ensuite, il y a aussi von der Leyen qui l'a dit, il y a le Parlement européen qui a pris une résolution contre la Pologne pour ces zones qui n'existaient pas. Tu as Joe Biden qui s'est insurgé contre ça. Joe Biden, le président des États-Unis, qui s'est insurgé contre ces zones qui n'existaient pas. Enfin, c'est quand même assez hallucinant, tout ce micmac autour de ces zones qui n'existent, mais pas du tout.
Mais comment ça se fait que justement ces journaux n'ont pas rectifié ? Parce que d'habitude, lorsque nous disons des choses, ils s'empressent de faire du fact-checking, hein, qui souvent est faux d'ailleurs, leur fact-checking. Et là, ils ne se sont pas empressés de dire excusez-nous, nous avons dit des trucs qui étaient faux, nous rectifions.
Ah non, ta question c'est est-ce que les journalistes rectifient, c'est ça ?
Ouais. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas justement rectifié ?
Ah non, jamais. Oui. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'au début, ils font de façon très forte, ils disent c'est interdit aux LGBT. Après, ils dévient un petit peu, c'est certains endroits qui sont interdits aux LGBT. Après, ils redévissent et les mairies refusent que les LGBT puissent s'afficher là. Après, ils dévient. C'est les ONG qui n'ont plus d'argent. Tu vois, ils font ça tout doucement. Mais au final, tu as dans la tête que c'est des zones. Il y a des endroits en Pologne, en fait, qui sont homophobes. Voilà. C'est-à-dire que, tu vois, déjà, ça finit comme ça. C'est qu'à la fin, la plupart des gens qui ont entendu cette information se disent, ah ben, la Pologne a légalisé l'homophobie d'une certaine manière. C'est ça le problème. Moi, tu sais, j'avais déjà raconté ça sur des radios et fait des articles là-dessus. Il y a Le Monde. Et ça, c'est vraiment la première grosse fake news qui m'est apparue de façon claire. Tu as Le Monde qui écrit un jour, voilà, enfin c'est son correspondant Ivaniouk. Retenez ce nom parce que c'est à chaque fois que vous voyez un article d'Ivaniouk, dites-vous que c'est sûrement faux, c'est un mythomane mais pathologique. Et donc il est correspondant du journal Le Monde à Varsovie. Et donc il a écrit que dans les bureaux de poste et dans les stations Orlen, donc bureaux de poste et stations d'essence, pardon, les stations Orlen, c'est une marque Orlen, c'est comme Total. Dans les stations d'essence, il n'y a plus Gazeta Wyborcza. Donc Gazeta Wyborcza, c'est le journal progressiste, c'est le grand journal progressiste, un peu Le Monde ou Libération. C'est le mélange de Le Monde et Libération à la fois en Pologne, donc qui est complètement anti-gouvernement, etc. Et donc, je me dis, tiens, c'est bizarre parce que, bon, en Pologne, la presse fait ce qu'elle veut, vraiment, c'est très étonnant. Donc je vais dans une poste. Je trouve Gazeta Wyborcza sans problème, enfin ce journal progressiste. Et donc je me dis, c'est quand même bizarre. Je vais demander, j'ai deux stagiaires qui sont de Sciences Po dans mon entreprise à l'époque, et je leur dis, bah, écoutez, prenez votre téléphone, allez dans la poste que vous voulez, mais vraiment vous la choisissez, je ne vous demande pas, je vous dis pas où aller, vous allez où vous voulez, vous allez faire un film, vous allez me dire si vous le trouvez, allez dans plusieurs postes même. Ils y vont, ils y trouvent à chaque fois Gazeta Wyborcza. Je me dis, il y a un problème. J'écris au chef de rédaction de Ivaniouk et je lui dis, bah, écoutez, c'est n'importe quoi, et on les trouve partout, voilà, le film de gens de sciences politiques, etc. Et donc, on a un long échange, il est très désagréable, hein, il me prend de très haut, enfin, moi, j'essaye de lui apporter les preuves que c'est complètement faux, je lui démontre que dans la presse polonaise, personne n'en parle, je lui dis, mais allez sur Google, je vous donne les mots en polonais, vous trouverez aucune information selon laquelle Gazeta Wyborcza n'est pas à la poste polonaise. En plus, je lui explique, je lui démontre aussi que deux tiers de la presse polonaise est anti-gouvernementale. Elle est contre le gouvernement actuel. Elle tire à boulet rouge, mais c'est pas comme la presse française, toute gentille avec le gouvernement, mais elle tire vraiment à boulet rouge sur le gouvernement et tous les jours. Donc, tout le monde en aurait parlé si c'était vrai. Et donc, à la fin, je lui démontre tout, et à la fin, c'est ce qu'il me répond. Il me répond, mais vous n'avez qu'à pas lire Ivaniouk alors. Enfin, tu vois, Le Monde quand même, hein, qui dit ça. Et le plus marrant, c'est qu'après, donc Ivaniouk, qui est considéré maintenant comme un héros contre le gouvernement polonais par la presse française, est interrogé dans un reportage de France 3, où là aussi, il ment totalement sur la Pologne, ils inventent des informations. Et là, il les ramène, le gars, il les ramène, je ne sais pas pourquoi il doit avoir un truc contre la poste polonaise, hein, j'en sais rien, il les ramène à la poste polonaise. Et là, le gars, il arrive devant le guichet et dit, voyez madame ici devant le guichet, il n'y a que de la presse d'extrême droite. Alors, je vais te montrer, parce que j'ai la photo de... Toi, tu connais la Pologne. Je ne sais pas si tu vas le voir. Ah non, je ne vais pas le voir.
Mais très bien. Mais ne pas lire.
Donc, je vais te lire. Donc, en fait, les magazines qu'il y a devant lui, c'est Politica. Bon, Politica, c'est hyper, hyper progressiste, quoi. C'est ce qu'il y a devant. Il dit que lui, il n'y a que des trucs d'extrême droite. Il y a Ogrodzenia, Ogródek, donc c'est un magazine sur le jardinage. Tu as Mieszkania, qui est donc un magazine sur l'appartement. Voilà, t'as que des magazines comme ça, t'as sur l'immobilier, mais, etc. T'as aucun magazine d'extrême droite. Et le type,
les gens ont une fausse image, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, depuis que j'habite en France, c'est-à-dire depuis quoi, 35 ans presque, on m'a jamais dit du bien de la Pologne. Hein. Ça, j'ai jamais entendu un mec dire ah ouais, la Pologne c'est génial. Hein. Jamais. J'ai l'impression que les gens ont encore l'image, tu vois, de l'époque communiste où tu avais les queues interminables chez le boucher, tu vois. J'ai l'impression que les gens ont encore ça en tête. Alors que, pour le coup, même en Pologne, en tout cas à Wrocław, hein, je ne sais pas à Cracovie, je ne connais pas du tout à Cracovie, tu as, je ne vais pas dire qu'il y a un melting pot à la française ou tu vois, un truc comme ça, mais tu as des gens, je ne sais pas moi, de couleur et qui vivent très bien. Tu as des... t'as de tout, quoi. Enfin, je veux dire, t'as des gens qui peuvent être homosexuels et qui sont pas emmerdés. D'après toi, d'où vient ce bashing?
Pour moi, le bashing, je ne l'observe pas chez les chefs d'entreprise, je ne l'observe pas dans les gens que
des
je
connais. Des médias et de la population.
Dans les médias, je pense que tout simplement, la Pologne montre les vraies valeurs européennes, c'est-à-dire que c'est un pays qui a encore sa culture, qui souhaite garder son identité, qui est catholique surtout, qui est vraiment, comment dire, qui est l'image, enfin, qui est l'essence même du catholicisme en Europe. Et donc là, tu vois bien qu'actuellement, l'Union européenne essaye, en fait, elle parle tout le temps des valeurs européennes, mais les valeurs européennes, c'est quoi? C'est la nation. C'est une des grandes inventions de l'Europe, c'est la nation. C'est-à-dire de dire, pour installer une bonne démocratie, l'environnement idéal, c'est une nation, c'est un pays, c'est une entité, c'est des frontières qu'on peut gouverner. C'est quelque chose qui est quand même assez restreint et qui est délimité. Et là, on va pouvoir imposer la souveraineté du peuple. Et donc là, l'Union européenne est contre la nation. Après, elle est contre le fait que chacun puisse avoir une identité. Ils essayent de diluer nos identités dans une sorte d'identité européenne qui n'existe pas. Enfin, si, une identité européenne, oui, mais ils ne veulent plus qu'il y ait une identité française, plus une identité polonaise. Ils veulent, c'est pour ça aussi, je pense, qu'on laisse entrer beaucoup de migrants sur les territoires pour essayer de créer un nouvel homme, une sorte de, je sais pas moi, de personne, comment on appelle ces gens-là une personne sans frontières, quoi, qui aime tout le monde. Je ne sais pas comment te dire ça.
Par exemple, regarde, j'ai un gentil commentaire de Pixel Cats qui dit « La Pologne, c'est le caniche des USA ». Qu'est-ce que tu en penses quand tu entends ça? Parce que moi, j'entends souvent ça.
Oui, mais on est tous le caniche de quelqu'un à ce moment-là. C'est le caniche des USA, mais il vaut mieux être le caniche des USA ou de Poutine, franchement? Non, mais sérieusement. Quand tu vois, je sais pas ce que ça veut dire le caniche des USA. En fait, la Pologne, elle a pas tort. Mais mettez-vous à sa place. Ça fait 4 siècles qu'elle est attaquée par la Russie et l'Allemagne, mais de façon horrible quand même. Hein. Les Russes, ça fait 4 siècles qu'ils attaquent tous leurs voisins. Mais les Pays-Bas, la Pologne, la Slovaquie, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, enfin, etc., etc. Ils ont attaqué tout le monde, les Scandinaves, etc. Ils font à chaque fois la même chose. Ils attaquent. Ils déportent les populations, ils interdisent la langue, ils interdisent la culture, et ils torturent les gens, ils les mettent en prison, et ça depuis 4 siècles. Donc ils ont ce pays qui est à leur porte, et ils voient que ce pays a toujours des ambitions impériales. Ben, on le voit actuellement avec l'Ukraine, hein, qui veulent aussi continuer leur expansionnisme. Parce que nous, le problème, il est là, c'est qu'en France, on est devenus des gens, on n'arrive plus à comprendre qu'un pays peut avoir encore des ambitions de puissance. On est complètement, on va dire, on nous a enlevé toute ambition en France, on n'a plus d'ambition de puissance, on est un pays qui se rabougrit, etc. Et on comprend pas que la Russie veut croître, veut prendre encore avoir des positions, veut s'imposer aux autres pays, veut envahir encore de nouveaux pays. Et donc la Pologne, face à un pays comme ça, qui est en plus la première puissance nucléaire, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut pas compter sur l'Allemagne. L'Allemagne, elle était, en tout cas jusqu'à l'invasion de l'Ukraine, était le grand allié de la Russie dans l'Union européenne. Sur la France, mais la France obéit à l'Allemagne. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va jusqu'aux USA, parce que c'est la seule puissance qui peut lui garantir sa sécurité, tout simplement. Comment elle pourrait faire autrement? Vous imaginez la Pologne contre l'arsenal nucléaire russe? Elle n'a même pas une bombe nucléaire, la Pologne. Qu'est-ce qu'elle fait? Qui peut la défendre?
Je vais te dire une chose. Si demain, la Russie attaquait la Pologne comme elle attaque l'Ukraine, je pense que la Russie se ferait détruire. Déjà, je ne vois pas la Russie, en fait, parce que les gens parlent de l'arsenal nucléaire, tu viens d'en parler, mais je ne crois pas que la Russie utilisera un de ces quatre, l'arsenal nucléaire, sauf si les mecs ils veulent se suicider, parce que si la Russie l'utilise, il n'y a plus de Russie demain, parce qu'ils vont se prendre l'arsenal nucléaire de la France, des Anglais, des Américains, etc. Bon, et je te dis très sincèrement, et moi je te l'avais déjà dit au mois de février, les Russes ne battront pas les Ukrainiens, parce
c'est
que
moi qui te l'avais dit.
Non, c'est moi qui te l'ai dit.
Non, c'est moi qui ai dit que les Russes jamais ne gagneraient contre les Ukrainiens.
Alors, on se l'est dit tous les deux, si tu veux. Allez, en tout cas, moi, j'étais persuadé de ce qui se passait. D'ailleurs, je t'ai parlé du bourbier ukrainien parce que dans toute l'histoire de la Russie n'a jamais gagné seule à l'Ouest, ce qui est une réalité. Oui ou non?
Oui, mais alors, c'est ce que tu dis est très vrai, mais il faut l'expliquer aux gens parce que là, encore une fois…
Explique-le, voilà.
Ils ont adopté mais le narratif russe, c'est-à-dire que quand on nous dit que les soviétiques ont libéré l'Europe, mais c'est C'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus, si tu veux, parce que les soviétiques, déjà, c'était jusqu'en 40, c'était les alliés de Hitler, c'est avec eux. Donc aussi, quand tu vois, il y a aussi un préjugé comme ça dans l'imaginaire français, enfin dans ce que disent les influenceurs, collaborateurs, collabos de Poutine, c'est que les Russes se battent contre le nazisme. Mais les Russes ne détestent pas Hitler. Enfin si, ils ne l'aiment pas parce qu'à cause de son idéologie pourrie, etc., ils détestent Hitler parce qu'il les a trahis. Ils considèrent que Hitler, avec Hitler, ils allaient diriger le monde, ils allaient contrôler le monde, ils allaient envahir le monde, ils allaient tuer toutes les autres nations et se partager le monde. Est-ce qu'ils lui en veulent pour ça? C'est qu'il les a trahis, qu'ils n'ont pas pu en fait diriger, contrôler et envahir le monde entier. Il y a encore actuellement, là, quand tu lis la littérature russe, il y a beaucoup de BD, il y a beaucoup aussi de littérature qui font des uchronies, tu sais, qui font. Et si on avait fait comme ça, qu'est-ce que ce serait devenu? Et la plupart de ces, bon, enfin une bonne partie en tout cas, c'est en fait Hitler nous a pas trahis, on s'est allié à lui, on a dégommé les USA, on a dégommé les Britanniques, et on contrôle le monde. Mais on a plein des livres comme ça et des bandes dessinées comme ça où ils sont tout contents d'être avec la Wehrmacht pour attaquer Londres, pour attaquer Washington, etc. C'est assez hallucinant. Hein, on n'imagine pas, on croit que les Russes sont anti-nazis, mais ils sont pas anti-nazis. Il déteste Hitler parce qu'il les a trahis uniquement pour ça, parce que sinon il le respecte énormément.
On a un commentaire de Stéphane, je pense qu'il est d'origine polonaise, Mrouviec, je pense que c'est ça, ouais. C'est-à-dire, en gros, le fourmilière, quoi. Monsieur Fourmilière. Sinon, Napoléon a gagné contre les Russes. Non, Napoléon n'a pas gagné, mais Napoléon est allé en Russie. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que les Russes gagnent lorsque vous allez sur leur terrain. Et qu'ils font la terre brûler, le froid et toutes ces choses. Mais les Russes ne gagnent jamais quand ils vont à l'ouest. C'est ça que je dis. Ce n'est pas la même chose, cher Stéphane. Voilà.
Et donc, effectivement, en 40, les Russes arrêtent seuls les Allemands. Ils les arrêtent comment? Comme tu le dis, avec leur grand territoire, qui est sans infrastructure, où il fait très froid, et puis surtout avec un mépris total de la vie humaine. Ils font comme ils font actuellement dans le Donbass. Ils envoient des soldats à peine armés. On l'a vu dans le film Stalingrad, on le voit très bien, les gars, il y a un type avec un fusil et un autre qui a les cartouches. Parce qu'on sait très bien qu'il y en a aucun, il y en a au moins un des deux qui va mourir. On les envoie, en fait, pour que les Allemands épuisent leur stock de munitions. Et actuellement, les Russes font exactement la même chose au Donbass avec les prisonniers. Enfin, les prisonniers qu'ils ont embauchés, qu'ils ont engagés dans l'armée.
Et il faut savoir que, à l'époque, Hitler, qui était un peu fou quand même, a voulu prendre Stalingrad, parce qu'ils se disent, c'est Stalingrad, la ville de Staline, alors que c'est une ville de con, il n'y avait rien de spécial là-bas. Et en y restant, plutôt que d'aller dans le Caucase, peut-être que si Hitler était allé directement dans le Caucase, plutôt que de se prendre la tête avec Stalingrad, il aurait peut-être battu les Russes, c'est possible. Hein. Voilà. Ils ont fait une erreur tactique, parce que les Russes leur ont fait... Et encore, c'est pas les Russes, c'est les Soviétiques, c'est-à-dire les Géorgiens, les Kazakhs, les je sais pas quoi, enfin tous ceux qui faisaient partie de l'Union Soviétique. Parce que l'Union Soviétique, beaucoup confondent avec essentiellement la Russie, donc ils disent les Russes, c'est pas les Russes. Et c'est pour ça que moi, quand j'avais dit la dernière fois que c'était plus l'armée de l'Est qui avait gagné la guerre plutôt que les Alliés. Moi, quand je parle d'armée de l'Est, je ne parle pas que des Russes. Je parle de tous les peuples slaves et même non-slaves de l'Est. Tu vois ce que je veux dire?
Mais bon, oui, oui.
C'est de la sémantique.
Et donc, pour finir sur les Russes, et donc ensuite, quand ils rattaquent, ils arrivent jusqu'à Berlin, c'est grâce aux Américains. Parce que les Américains leur fournissent 15 millions de bottes, leur fournissent tout leur matériel de communication, les radios, les téléphones, ils n'en avaient aucun. Tous les camions, mais tous les camions, je crois que les Américains ont donné 50 000 camions et 40 000 jeeps, même les orgues de Staline, tu sais, là, les missiles qui partent comme ça, les orgues de Staline en masse, c'est monté sur des camions américains. Les pistes d'atterrissage en acier pour les pistes de campagne sont américaines. Le carburant pour les avions est américain. Le chemin de fer, 90% des nouveaux chemins de fer installés par lesquels passe tout l'approvisionnement est américain. C'est-à-dire que sans les Américains, les Russes ne pouvaient pas faire cette contre-offensive contre l'Allemagne et gagner. D'ailleurs, ils n'ont pas gagné. C'est l'industrie américaine vraiment qui a gagné contre l'Allemagne. La Russie a permis de gagner deux, c'est énorme, hein, un, deux, voire trois ans maximum. mais les Américains auraient défoncé les Allemands. D'ailleurs, si Franco, même Franco le dit, si Franco ne se bat pas, ne se met pas aux côtés de Hitler, c'est parce qu'il a les chiffres de l'industrie allemande, ce qu'elle est capable de produire, et ce qu'est capable de produire les Américains. Et il dit, mais c'est impossible, ils ne gagneront jamais. Donc, c'est pour ça qu'il ne s'est pas mis aux côtés d'Hitler, c'est parce que lui a vu tout de suite qu'industriellement, les Américains allaient défoncer, mais c'est le mot, allaient défoncer les Allemands. Et qui,
après, tu vois,
le débarquement, qui fait le débarquement quand même?
Ouais, mais après, les Américains. Si les Allemands, ils n'avaient pas deux fronts, là, on ne sait pas, en fait.
Non, même avec les deux fronts. Moi, je t'assure, là, c'est vraiment une discussion qu'on a de nos jours. Mais moi, mon grand-père, il était dans les forces françaises libres, il a fait Monte Cassino, il a fait la campagne d'Allemagne. Tu lui aurais dit ça aujourd'hui, que c'est les Russes qui ont libéré l'Europe, mais il t'aurait démonté. Tu aurais défoncé, je t'assure qu'il t'aurait défoncé. Et va dire, toi, qui es Polonais, va dire aux Polonais que c'est les Soviétiques qui les ont libérés. Va dire aux Hongrois que c'est les Soviétiques qui les ont libérés. Va dire aux Tchécoslovaques que c'est les Soviétiques qui ont... Enfin, des gens de droite qui disent ça, mais c'est hallucinant.
Mais tu sais, moi, il se trouve que j'ai un grand-père qui était à la bataille de Berlin. Et il se trouve qu'à la bataille de Berlin, les Polonais étaient en première ligne. Et les Soviétiques ont exigé qu'ils s'arrêtent pour que eux-mêmes aillent après en première ligne, pour que les Soviétiques aillent en première ligne et mettent leur drapeau et diront, regardez, c'est nous. Bon, petite histoire comme ça.
Mais tiens, c'est marrant parce que ça, c'est une des grosses fake news, pas une fake news, mais une manipulation. Tu sais, cette image, elle est très forte. On voit les Soviétiques mettre le drapeau soviétique. Tu sais qu'ils ont effacé ce qu'il y avait sur les poignets des soldats.
Les montres, ouais.
Ouais, il y avait plusieurs montres parce qu'ils avaient volé. Déjà, à l'époque, tu vois, c'est ça l'armée soviétique. C'est des gens corrompus qui volent. Ils sont alcooliques, mais c'est la vérité, qui violent. Les viols des Soviétiques ont été monstrués sur l'Allemagne. Je crois qu'un enfant sur trois en Allemagne de l'Est est en fait un enfant d'un soldat soviétique. Enfin, à l'époque, hein, en 1945-1946.
Mais sinon, pour en revenir au sujet actuel, moi j'imagine que des gens te disent « Ouais, mais bon, ok, t'es pour les Ukrainiens, mais alors ça veut dire que t'es dans la position de Macron, Biden, BHL. » Qu'est-ce que toi tu réponds à cet argumentaire?
Parce que c'est eux qui ont rejoint mes positions, franchement. Attends, quand tu regardes les Ukrainiens, ils défendent quoi? Ils défendent la nation, ils défendent leurs frontières, ils défendent leur identité. C'est incroyable quand tu penses que toute la droite française, elle avait l'occasion de dire « Mais regardez, nos valeurs sont les bonnes. Celles de la nation, de l'identité, des frontières, du drapeau, d'aimer son pays, etc. » Elle pouvait enfin faire corps avec toute la population française, qui est massivement pour les Ukrainiens. Tu vois dans les sondages, parce que tout simplement, ils comprennent pas qu'on puisse leur dire que la Russie, première puissance nucléaire, puisse être une victime. Et là, on avait la chance de pouvoir dire, de pouvoir démontrer que nos valeurs étaient les meilleures. Et non, qu'est-ce qu'on fait? On se met du côté de l'impérial, de la puissance impériale qui veut détruire une nation. Enfin, c'est une faute totale. C'est une faute, c'est impardonnable de la part de la droite française de se mettre du côté, enfin, de ceux de la droite française qui se mettent du côté russe parce que les Ukrainiens défendent nos valeurs. Et en plus,
Parce que pour toi, les Ukrainiens défendent les valeurs occidentales.
Ah bah, la nation, c'est pas une valeur occidentale. La démocratie, c'est pas une valeur occidentale. La souveraineté populaire. Enfin, je sais pas, t'as un type qui vient de l'extérieur et qui te dit, bah non, bah, je veux que tu démilitarises, je veux que tu changes de gouvernement. Et alors que tu viens de faire les élections, t'as élu un type. Bah bon, et tu lui dis, écoute, bon, c'est pas forcément que je l'aime, mais c'est à moi de décider s'il reste ou s'il reste pas. Enfin, je sais pas, c'est les valeurs élémentaires de l'Occident. C'est ça, c'est la démocratie. C'est l'intangibilité des frontières, c'est l'identité, c'est nos valeurs vraiment. Et là, on dit, bah non, t'as les gens de droite qui disent, ah non, non, nous, du côté du gars qui est du KGB, enfin, il faut quand même se rendre compte. Enfin, je sais pas moi, des gens de droite, quand t'imagines Poutine, c'est un ancien du KGB, mais pas de n'importe quel KGB, c'est le KGB. C'est le KGB, il était dans le KGB sous Brejnev et Andropov. Donc c'était au moment où le KGB était vraiment l'outil qui servait à maintenir la dictature, à torturer les gens, à obliger les gens à obéir au pouvoir central. C'est lui qui était dans cette, il était même officier dans le KGB. Poutine, c'est qui actuellement ses alliés? C'est la Chine communiste, la
Corée du Nord, c'est l'Iran. Qui exactement Poutine? Voilà. Qui est, pour toi, voilà, qui a étudié la question, qui est Poutine exactement?
Ben, c'est vraiment une racaille, en fait. Quand tu regardes, il est comme les racailles, il s'attaque toujours aux gens, aux faibles, aux ceux qui ont peur de lui. Il s'attaque jamais à des gens forts. Regarde, quand par exemple, il y a un moment, il y avait, tu avais le, tu as le comment on appelle ça, le secrétaire d'État américain qui va à Kiev. Le lendemain, il se passe rien. Le lendemain, tu as le secrétaire général de l'ONU qui va, il balance des missiles sur Kiev pour lui, enfin pour me démontrer comme quoi c'est lui le chef et il peut me lancer à, je sais plus, à un kilomètre de lui. Il a jamais fait ça avec le secrétaire d'État américain, parce qu'il a peur des Américains. C'est vrai, il a vraiment une mentalité de racaille. Tu vois bien, dès qu'il y a un problème, il va te dire, ah oui, mais moi, je vais utiliser l'arme nucléaire, attention. Il est tout le temps à menacer, mais en fait, le gars, bah, comme toutes les racailles, en fait, c'est, je vais pas dire c'est une poule mouillée, parce que il va jamais s'attaquer à plus fort que lui. Puis de toute façon, son enfance, c'est une enfance de petite racaille. Ça a été démontré dans les livres, même dans les biographies pro-Poutine. Et ensuite, il devient agent du KGB. Et après, il est monté par les anciens du KGB pour arriver jusqu'au pouvoir. Et c'est quelqu'un qui, en plus, comment dire, a une certaine nostalgie, même une nostalgie, il l'avoue lui-même, hein. Il dit que le pire jour de sa vie, c'est quand le mur de Berlin est tombé. Enfin, t'imagines. Il y avait une dictature communiste, une tyrannie soviétique qui était en place. Et lui, le pire jour de sa vie, c'est quand le mur de Berlin est tombé. Et t'as des gens de droite qui supportent ce gars-là. Enfin, ça me dépasse totalement.
Oui, mais comment tu l'expliques? Parce que moi je l'explique parce que comme le président de la République en France, c'est Macron, bon, on sait qu'il a l'air un peu à voile à vapeur. Bon, il y a l'histoire aussi, Jean-Michel et compagnie. Et donc, en France, on aime l'homme providentiel. On a eu De Gaulle, Napoléon, je sais pas moi, Louis XIV, Charlemagne. Bon. Et on se retrouve aujourd'hui avec d'abord avec Hollande, après avec Macron. Donc, est-ce qu'il n'y a pas peut-être une envie de chef, quoi, du grand commandeur, et on voit en Poutine ce commandeur en France?
Écoute, ces gens-là font quand même trois fautes majeures. Donc, comme je l'ai dit, on avait enfin la possibilité de démontrer à toute la population à être en phase, en communion avec toute la population sur nos valeurs. Mais vraiment, on a manqué un coche, mais incroyable. Ensuite, ils commettent une autre faute, c'est-à-dire qu'ils donnent raison aux progressistes, qui dit tout ce qui n'est pas progressisme, on peut pas être, comment dire, on ne peut pas être démocrate et ne pas être progressiste. Et là, on leur dit oui, effectivement, nous, on est pour l'autoritarisme. C'est-à-dire que tu comprends, c'est-à-dire que jusqu'à présent, pour moi, on pouvait dire, bah, écoute, tu peux être progressiste, tu peux être conservateur et démocrate. Là, non, on accepte, on rentre dans le piège des progressistes en disant, bah, nous, effectivement, on n'est pas progressiste, on n'est pas démocrate, on est pour l'autoritarisme, parce que quand même, c'est une dictature autoritaire, quand même, Poutine. Donc déjà, on fait ces deux erreurs. Troisième erreur, c'est que ça fait très longtemps, je vois pas d'autres à un moment, enfin, il y a très peu de moments comme ça, où pour une fois, les intérêts des anglo-saxons sont les nôtres. C'est-à-dire, c'est très rare, où en fait, l'intérêt des États-Unis, de la Grande-Bretagne, c'est aussi dans l'intérêt de la France. Et actuellement, c'est le cas. Tu as actuellement l'Ukraine. Regarde ce que nous disaient avant ces fameux souverainistes, patriotes, et qui sont maintenant du côté de Poutine. Avant, ils te disaient le problème, c'est l'euro qui est trop fort. Bah là, ça y est, il est très faible. Donc, c'est super. Ils devraient dire bah, super, bravo, l'euro est très faible. C'est ce qui. J'ai oublié le nom de tous ces pseudo-économistes, mais ça fait à peu près 10 ans qu'ils te disent il nous faut un euro faible. C'est vrai ou faux?
Bien sûr. Donc,
et là, il est très faible. Et il pleure comme des gamines.
Zemmour disait qu'il voulait un euro faible.
Oui, et maintenant, tous ces gens pleurent comme des gamines. Non, c'est pas bien, l'euro, il est faible. Il disait qu'il fallait de l'inflation pour combattre l'endettement. Bon, on a de l'inflation qui combat l'endettement. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent, c'est pas bien, maman. c'est hallucinant. Après, il te disait, et moi, par contre, ça, c'est un discours que je soutenais à fond, c'est qu'il y avait une hégémonie économique de l'Allemagne sur l'Europe qui faisait que la France était complètement soumise à l'Allemagne. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et cette hégémonie allemande était basée sur quoi? Sur quoi elle était surtout basée?
C'est en fait sur le gaz
pas cher russe. Parce que là, ils pleurent tous le gaz pas cher russe, mais il était à 95% pour l'Allemagne. Nord Stream, c'était pour l'Allemagne, ce gaz pas cher. Et qu'est-ce qu'a fait l'Allemagne? L'Allemagne, elle s'est dit, bah, moi, j'ai du gaz pas cher, je vais le donner à mon industrie, comme ça, ils vont produire à peu de coûts, et on va tout faire pour descendre la filière nucléaire française. Ce qu'ils ont essayé de faire, ils ont réussi avec Ségolène Royal. Ils ont réussi à descendre la filière. Qu'est-ce qu'il fait Fessenheim? C'est Ségolène Royal. Qui commence à fermer toutes les centrales nucléaires? C'est Ségolène Royal et François Hollande et Emmanuel Macron qui vont en plus Alstom derrière. Donc, tous ces gens-là ont essayé de détruire notre filière nucléaire sous les ordres, sur les ordres, pardon, de l'Allemagne. Et que font ces gens-là maintenant? Nord Stream a explosé. Mais moi, j'ai ouvert le champagne quand Nord Stream a explosé. C'est une super nouvelle pour l'industrie française. On va avoir un avantage compétitif énorme. Enfin, quand nos centrales vont revenir, hein, parce que là, je crois qu'il y a la moitié qui est en maintenance.
C'est pas évident.
Moi, je sais pas. Je dis aux gens.
On n'a plus les ingénieurs nucléaires. Hein,
ça faut que mais attends. Je dis aux gens, vous avez au moins deux neurones. Vous avez actuellement Ségolène Royal qui vous dit qu'il faut la paix, il faut laisser tranquille la Russie. Bon, si on fait la paix avec la Russie, qu'est-ce qui va se passer? L'Allemagne va se rabibocher avec elle. Elle va remettre en route Nord Stream 2. Et de nouveau, on va avoir cette compétition. Et donc, de nouveau, l'Allemagne va se dire, c'est bon, j'ai le gaz, maintenant, je vais pouvoir faire chier les Français sur les centrales nucléaires. Et qui déjà a fermé, qui je t'ai dit qui avait fermé les centrales nucléaires? Ségolène Royal. Je sais pas, ça vous tourne pas un peu dans la tête, Ségolène Royal dit.
On ferme les centrales nucléaires. Pour toi,
c'est des vendus, c'est des collabos, des
trucs, oui. Si la Russie coupe le gaz à l'Europe, eh ben, c'est l'Allemagne qui va trinquer, pas la France. Mais moi, par exemple, j'ai Bertrand Scholler, que tu connais, qui m'a dit le contraire. Il m'a dit que si l'Allemagne trinque, nous trinquerons.
La blague, la big blague. Alors déjà, dans le mixte, tu sais combien dans le mixte énergétique français, le gaz russe compte? 2%. C'est-à-dire que quand tu prends tout, le nucléaire, l'essence, bidule, machin, enfin même le gaz et l'essence russe, c'est 2% de toute notre énergie. Donc nous, on n'en a rien à péter. Après, quand Bertrand te dit c'est nous qui allons trinquer, ben non, c'est d'abord les Allemands qui vont trinquer, avant tout. Mais si tu veux, tu peux pas passer d'un état à un autre où tu as quelqu'un tu es sous l'hégémonie de quelqu'un sans un minimum de casse. Et finalement, effectivement, il va falloir faire des réajustements, ça va être pas simple. Mais qu'est-ce qu'il vaut mieux? Rester un esclave, en fait. Quand tu écoutes Bertrand, il est là le problème. C'est il te dit, en fait, il faut qu'on reste des esclaves de l'Allemagne, des esclaves de la Russie. Tu te rappelles, il nous a même dit ça un jour. On lui a dit, mais il faut se réarmer, etc. Il lui a dit, mais non, pourquoi? C'est très bien de rester sous domination russe. Enfin, il nous avait dit un truc, je sais pas si tu te rappelles, il nous avait dit quelque chose comme ça.
C'est vrai, il avait dit que c'était pas bien de se réarmer parce que de toute façon, les Russes avaient des armes supérieures.
Voilà. Tu vois, c'est quelqu'un qui, en fait, quand tu l'écoutes bien, ce qu'il nous dit, mais non, mais restons des paillassons. Et la plupart de ces gens-là te disent ça. Ils t'instillent ça dans la tête. Il vaut mieux être pour la paix, il vaut mieux être des paillassons. Ce sont des traîtres. Ce sont Asselineau, bon, Philippe.
J'irai pas jusqu'à dire
c'est des collabos, c'est des traîtres, c'est des gens qui sont.
Un traître, c'est si demain la Russie attaque la France, il dira ah ben non, mais moi je suis contre la France, je vais pour la Russie. Bon, il n'est pas à ce point-là, il ne faut pas non plus.
Ah bah si, quand même, c'est ce qu'il dit. Il te dit qu'il vaut mieux, rester sous la puissance russe. C'est un traître. Qu'est-ce que c'est d'autre? Il vaut mieux que la France ne se réarme pas. Il faut garder le gaz allemand, le gaz russe pour les Allemands. Qui nous asservissent.
C'est pas un traître. Lui, ce qu'il dit, c'est que si demain l'Allemagne s'écroule, nous nous écroulons parce qu'en fait, comme tu l'as dit si bien, notre industrie, la nucléaire, ne fonctionnant plus, on s'écroulera malgré que.
Non, mais elle est en maintenance, c'est différent. Elle fonctionne. C'est-à-dire que là, actuellement, la moitié des réacteurs sont en maintenance. Mais un jour, ils vont revenir sur le parc. Ça va revenir. C'est pas un souci, ça, là-dessus. Et puis surtout, nous, même en imaginant qu'il reste en maintenance pour X raisons, ça peut, je sais pas pourquoi, mais même imaginons cela, ben nous, il n'y a que 3% de notre gaz. Donc eux, les Allemands, c'était 60% de leur gaz est russe. Enfin, 60% de leur énergie pour l'industrie, 60% de leur gaz est russe. Donc pendant que nous, on va continuer, parce que bon, 3%, on va s'arranger, ben, comme dirait l'autre, on va mettre des cols roulés, j'en sais rien. Mais c'est pas très grave. Mais les Allemands, par contre, vont perdre en compétitivité.
Là où je suis vraiment d'accord avec toi à fond, c'est il faut se faire l'Allemagne. Je vais raconter une petite anecdote qui m'est arrivée jeudi. Tiens, jeudi, je t'en ai parlé en off, mais bon, je vais en parler à tout le monde. Je suis allé au Parlement européen de Strasbourg et j'ai vu nos chers amis allemands avec des brassards, voilà, des beaux brassards comme ça, avec marqué One Love et des drapeaux LGBT. Bon. Ça faisait très heure sombre dans notre histoire. Et j'ai vu au Parlement de Strasbourg, indépendamment de ça, bon, qui peut être un rigolo, c'est que le Parlement européen, qui est en France, c'est les Allemands qui dirigent. Et c'est les Allemands et les pays nordiques qui dirigent. et on ne peut pas laisser faire. On est quand même la France, merde. C'est nous qui avons la puissance nucléaire, ce n'est pas les Allemands. Et les Allemands, il faut dire les choses. Sur le continent, on a un ennemi, c'est l'Allemagne. On a l'île anglaise qui est un ennemi aussi, mais sur le continent, en tout cas, c'est l'Allemagne. Voilà. Donc, et moi, je ne comprends pas cette volonté de vouloir faire ce fameux couple franco-allemand qui, en réalité, n'existe pas. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
Ah oui, non, mais les Allemands, eux, ne parlent même pas de couple franco-allemand. Pour les Allemands, enfin, les Allemands défendent leur économie au sein de la Commission, au sein du Parlement européen. Dès qu'il y a une décision prise au Parlement européen, ça va dans le sens de l'économie allemande, mais toujours, à chaque fois. À chaque fois, tu as aussi les eurodéputés des Républicains, en général, qui votent pour les intérêts allemands. C'est hallucinant. Mais à chaque fois, jamais ils s'opposent aux Allemands. Ça fait vraiment peur. Et c'est là où je dis, tu vois, c'est pour ça que tu peux pas dire que ce sont pas des traîtres, ces gens-là. Parce que tous ces gens-là ont fait les mêmes constats que nous. Sur les Allemands. Ils font tous ces gens qui sont maintenant pro-russes, enfin, qui te disent pas qu'ils sont pro-russes, mais qui te disent, ah, l'Ukraine, gna, qui pleurent l'inflation. Mais il y a encore, mais vraiment, c'était vraiment, tu regardes janvier 2022, leur discours, c'est, il faut de l'inflation, il faut un euro faible, il faut abattre l'hégémonie allemande. Et là, tout d'un coup, ils changent de discours pour soutenir le gaz russe, pour soutenir l'intervention russe. Enfin, si c'est pas des traites, c'est quoi? Ils changent de discours, leurs idées, qui était bonne, juste pour un pays étranger, pour une puissance étrangère, qui en plus nous est néfaste. Rappelle-toi ce que disait De Gaulle. De Gaulle, il disait, à chaque fois qu'il y a une alliance entre l'Allemagne et la Russie, ça a été néfaste pour la France. Et De Gaulle le disait, que le problème de la Russie, c'était une puissance vindicative. Et il disait, mais il a rajouté aussi, De Gaulle, que, en fait, le problème des pays de l'Est, de la Pologne notamment, c'est qu'elle se retrouvait toujours entre l'Allemagne et la Russie, et que sa seule chance d'empêcher cela, c'était s'allier à la France. Et pour la France, sa seule chance de pouvoir contrecarrer, d'avoir une alliance, de contrecarrer l'Allemagne, c'était de s'allier à la Pologne. Donc, tu vois, en plus, ces gens-là vont te dire, mais non, mais attends, mais De Gaulle, il était pro-russe, mais il a jamais été pro-russe. À Cuba, quand il y a eu Cuba, les missiles à Cuba, il était avec les Américains. C'était le premier allié, même avant la Grande-Bretagne. Quand il y a eu Berlin, le mur de Berlin, quand ils ont commencé à construire le mur du Berlin, c'est le premier à critiquer la Russie. Il a toujours, mais toujours critiqué la Russie et les Soviets. Alors, et maintenant, t'as ces gens-là, les mêmes, qui vont te dire que De Gaulle était pour l'Alliance. De Gaulle, rappelle-toi, il dit l'Europe. Il dit quoi? L'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Pour lui, la Russie, on ne peut pas la garder comme elle est. Il faut que la Russie cesse d'être impériale pour qu'elle puisse être intégrée à l'Union à l'Europe.
Qu'est-ce que devrait faire la Russie? C'est-à-dire, elle devrait se débarrasser de ses je sais pas, de la Sibérie. Pour toi, la Russie, c'est d'où à où à peu près? Tiens.
Mais moi, je ne veux pas dire d'où est la Russie à la Russie, mais ce que je sais, c'est aussi, et là aussi, c'est un problème, c'est qu'on nous dit oui, il faudrait faire l'Europe avec la Russie, mais c'est impossible de faire l'Europe avec la Russie. Elle est trop grande, elle va nous écraser. Enfin, c'est 140 millions d'habitants, 18 millions, c'est ça, de kilomètres carrés. On peut pas l'intégrer. Il faut forcément la démembrer. Tu peux pas intégrer la Russie à l'Europe sans la démembrer. Et donc, le fait, comme disait Brzezinski, hein, qu'est-ce qu'il disait? C'est tout le monde en parle, même les gens de droite pro-russe te parlent tout le temps de Brzezinski, mais il disait une chose très simple. Il disait, le problème avec la Russie, c'est que elle a des ambitions impériales. Et donc, depuis 4 siècles, elle attaque, ce que je t'ai dit, elle attaque ses voisins, elle persécute les populations, elle les déporte, elle torture les gens. Mais c'est la réalité. Et toi, tu dis, moi, je suis pas d'accord du tout avec là-dessus, c'est-à-dire que, tu vas dire que, en gros, le soviétisme, c'est quelque chose de désincarné, c'est quelque chose de singulier. Non, non. C'est juste, c'est la continuité de l'impérialisme russe, le soviétisme. C'est toujours, ils ont fait quoi? Ils ont fait comme ont fait les Russes comme a fait Catherine II, comme a fait tous les tsars. Ils ont déporté, envahi leurs voisins.
Moi, je vais te dire
ils ont chose, assassiné.
L'impérialisme.
Attends, je vais finir juste là-dessus et après, on en parle. Vas-y. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la seule façon, c'est de lui enlever toute ambition impériale, c'est d'enlever de sa sphère l'Ukraine. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, merci, tant mieux. On va pouvoir comme ça ensuite intégrer la Russie. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Une fois que les autres pays, la Turquie, va voir que la Russie abandonne l'Ukraine, elle va dire, moi, je vais m'occuper des républiques islamistes en Asie centrale qui sont plus turcophones. Qu'est-ce que va faire la Chine? La Chine va dire, attends, les territoires en Sibérie, ils sont pas mal. Il y a deux pelés intondus là-bas. En plus, il y a des réserves de gaz, de pétrole et tout. D'une manière ou d'une autre, je vais essayer de m'y implanter. Donc, on va assister à ça. Et d'ailleurs, Poutine, je pense qu'il attaque l'Ukraine. Enfin, c'est une folie totale parce que ce qu'on oublie, c'est quand même que Biden, il a donné son accord pour Nord Stream 2. Il ment encore une fois là-dessus, la plupart des influenceurs pro-russes. Il avait donné son accord pour ouvrir Nord Stream 2, donc Poutine allait avoir plein d'argent. Mais Poutine se rendait compte aussi qu'il était en train de perdre la Russie. Et la Russie allait être démembrée. Et la Russie va être démembrée, et c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde.
Bon, après, tu vois, moi, je suis... Concernant l'impérialisme, moi, j'aimerais que la France soit impérialiste, comme elle a été à l'époque de l'Ancien Régime, par exemple, où la Pologne l'a été aussi impérialiste. La Pologne a envahi la Russie. Donc, bon, après, si j'étais du côté russe, j'aimerais aussi que...
En plus. Voilà, envahi la Russie, enfin... Parce qu'il y avait des guerres, etc. Puis il faut bien se rendre compte qu'à l'époque où la Pologne rentre dans tous ces territoires, c'est un peu des terra nullius. Il n'y a quasiment plus personne. Ils ont été dévastés d'abord par la horde d'or, les Mongols, et ensuite par la peste. Enfin, à l'inverse, d'abord par la peste, et ensuite par l'horde d'or. Déjà, il y avait quasiment personne en Ukraine et en Russie. Mais en plus, tout d'un coup, tu as la peste qui est arrivée, qui a détruit un tiers de la population, 40% de la population. Et après, les horde d'or, ont détruit la moitié.
Non, mais à l'époque, tu avais une envie du roi de Pologne de convertir les Russes au catholicisme romain. C'est aussi pour ça. C'était aussi pour ça. Et en Pologne, le problème de la Pologne, c'est qu'elle a une géographie à la con entre les Allemands et les Russes. Bon, ça, c'est pas de chance. Mais je pense que si la Pologne avait la géographie de la Russie, je pense qu'elle aurait réagi comme réagissent les Russes. Parce que les Slaves, en général... sont assez belliqueux pour le coup, aiment beaucoup la guerre, tu vois, et auraient essayé d'envahir. Et d'ailleurs, tu l'as dit en début d'émission, la France a perdu toute ambition. Alors peut-être que la Russie a encore une forme d'ambition. Et c'est, alors, pour le coup, comme on n'est pas russe, ça peut nous emmerder. Mais le fait que, moi, si j'étais russe, j'aurais aimé que je serais content que mon pays ait cette ambition. Enfin, je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, ça dépend, parce que si tu veux, si toi, pour toi c'est important la nation, tu peux pas être impérialiste, oui, c'est complètement antinomique. Tu peux pas être impérialiste et aimer la nation, parce que l'impérialisme c'est agréger des populations extérieures. Tu peux pas être souverainiste ni même souverainiste.
Moi je suis pas souverainiste. Hein.
Mais si tu es impérialiste, il faut choisir entre, si tu veux, l'impérialisme c'est quand même, et on le voit avec Poutine.
Mais les Américains sont impérialistes par exemple.
Alors, ils sont pour une sorte de soft power impérialisme, mais tu vois, par exemple, les Américains n'ont jamais annexé des territoires, ils n'ont jamais annexé l'Irak.
C'est pas non, pareil. Mais ils ont annexé l'Alaska, Hawaï, le Texas.
L'Alaska, il n'y a personne à Hawaï qui était contre, ou qui est contre actuellement, en tout cas. Il n'y a personne.
Oui, mais ils se sont quand même fait une population autochtone qui habitait avant qu'ils arrivent. Enfin, je veux dire, les Anglo-Saxons.
Oui, mais bon, c'est un peu la question de terra nullius. Il y avait quasiment personne, quoi.
Faut dire la vérité. Les Anglo-Saxons, contrairement à la France, tu vois, lorsque les Anglo-Saxons colonisaient un pays, il y avait une colonie de population, ce que la France n'a jamais fait, par exemple, sauf un peu au Canada, mais encore. Bon, tu vois, c'est-à-dire que les Anglo-Saxons eux-mêmes ont une forme d'impérialisme entre eux, c'est-à-dire que en Australie, en Amérique, je parle en Nouvelle-Zélande, voilà. Bon, donc que des peuples aient envie de dominer d'autres peuples, je pense que c'est une forme de nature humaine, non?
Ah oui, bien sûr, mais oui, d'accord, mais bah, pour autant, je dois être d'accord avec ce qu'ils font.
Ah non,
mais
bien sûr.
Dans la nature humaine, t'as des violeurs aussi, hein, dans la nature humaine, t'as des pédophiles, et pour autant, tout ce que j'espère, c'est qu'ils soient dégommés, ces gens-là. Et bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui, c'est dans la nature humaine, effectivement.
Mais tu as eu un truc là dernièrement, c'est les bombes.
Maxime Max, dans le Donbass, personne n'était contre être annexé par la Russie. Ben, on n'en sait rien. Qui peut le savoir?
Tiens, parle-nous du Donbass. Est-ce que c'est une réalité que les gens, les russophones, voulaient être annexés par la Russie? Ou est-ce que c'est une fake news?
Ben c'est une fake news totale, on le voit aujourd'hui. On te disait, par exemple, Pozzo di Borgo te disait qu'à Odessa, les gens attendaient avec impatience les Russes. Mais quelle ville russophone, Odessa, a commencé à se préparer, à résister? Il y a eu des concerts contre les Russes, etc. Il n'y a pas une seule, mais même pas un village russophone en Ukraine qui a décidé de changer de camp de lui-même. Il n'y en a eu aucun. À chaque fois, ils ont envahi Kherson, qui est une ville russophone. Quand les Russes sont arrivés, ils ont protesté, il y a eu des manifestations. Quand les Ukrainiens ont repris la ville, ils leur ont jeté des fleurs, ils ont chanté, ils ont fait la fête, etc. Donc tout ça, c'est complètement faux. Et de toute façon, l'Ukraine est russophone. Lille, par exemple, il y a un article très intéressant dans l'Incorrect, une interview de Gabriel Robin de Monsieur Marechko, qui est un journaliste français qui a vécu 5 ans dans le Donbass. Mais il te dit, c'est hallucinant de croire que les russophones étaient opprimés. Moi, j'ai accueilli des réfugiés russophones, enfin ukrainiens, russophones. Mais ils étaient morts de rire quand on leur disait ça. Ils disaient, mais il y a personne qui est opprimé parce qu'il est russophone en Ukraine. Quand les gens du Donbass, à 80%, ont voté pour l'indépendance de l'Ukraine, à 80% les gens du Donbass. Et là, les élections qui ont eu lieu, mais... Quand tu vois qu'il y a des gens, par exemple, comme Charles Gave, qui dit que c'est des élections normales, qui s'est passé. Mais attends, les gars, il y a à peu près la moitié de la population qui est partie du Donbass. Donc, pour faire des élections, il faudrait que déjà cette population revienne. Ensuite, ces élections, il n'y avait pas eu de débat. Enfin, tu fais un référendum sur l'avenir de ton pays, enfin de ta région en tout cas, il n'y a pas de débat. Il n'y a aucun débat. Il n'y a personne de l'opposition qui a pu s'exprimer. C'était que des informations pro-russes. Donc, je ne sais pas. Tu devais voter, c'est les soldats qui venaient chercher ton vote. Enfin, je sais
mais
pas.
Regarde, mais regarde, tu as parlé de Charles Gave. Bon, Charles Gave, je ne crois pas qu'il soit payé par la Russie. Il n'a pas besoin d'argent de la Russie. Bon, comment tu expliques la position de Charles Gave?
Et parce que vous êtes entouré. C'est comme Zemmour, tous les gens, quand tu regardais, il y a beaucoup de gens de Valeurs Actuelles, beaucoup de gens du Figaro qui étaient persuadés que Zemmour allait être président de la République, ou au moins au second tour. Moi, dès septembre, j'ai retrouvé même le tweet et l'article que j'ai écrit, je disais qu'il ferait pas mieux que Bellamy, qu'il ferait pas plus que Bellamy, et c'est ce qui est arrivé. Parce que à Paris, vous vous auto-intoxiquez. C'est-à-dire que Charles Gave qui va rencontrer Baude, qui va rencontrer Berkov, qui va rencontrer tous ces gens-là, qui eux sont pro-russes. T'as plein de gens, par exemple, qui étaient sur Russia Today, qui va rencontrer Charles Gave. Il y a les anciens de Russia Today continuent à être payés par Russia Today. Ça, j'aimerais que les gens se comprennent que la plupart des gens que vous voyez, l'action pro-russe qui était avant à Russia Today, continuent à être payés par Russia Today. Enfin, je sais pas, vous comprenez quand même ça. Et là, je voyais, il y a un monsieur qui s'appelle Kossar qui disait, mais les gens du Donbass, pendant 8 ans, il y a eu un génocide ou je sais pas quoi, mais c'est faux. C'est une fake news.
Il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu au Donbass exactement?
En 2014, tu as donc Maïdan. C'est vraiment une révolte populaire. Regardez les images. Moi, je dis aux gens, mais vous allez dire que je mens. OK, si vous voulez, mais regardez les images. On voit que c'est une révolte populaire. Il y a un monde fou à Maïdan, alors au Maïdan. Il y a un monde fou qui se rebelle, en fait, contre ce qu'on appelle le clan du Donbass. Le clan du Donbass, c'est quoi? Ce sont des politiques qui sont des anciens soviétiques, enfin des anciens nomenclatura soviétique communistes, qui s'est allié à la mafia pour gagner les élections. Et donc, ils ont menti pour gagner les élections. Non seulement, bon, ils ont payé beaucoup, il y a eu des fraudes, etc. Mais ils ont menti, ils ont dit, écoutez, c'est vrai, on est du Donbass, on est considéré normalement comme pro-russe, notre parti, le parti des régions est considéré comme pro-russe, mais on vous promet, on va aller plus vers l'Union européenne, on va conclure des accords avec l'Union européenne. Et ils arrivent au pouvoir, ils font tout le contraire. Ils arrêtent les accords avec l'Union européenne, il y a encore plus de corruption, il y a une énorme corruption en Ukraine. Enfin, moins qu'en Russie, mais il y en a une énorme en Ukraine. Et donc, et là, le peuple en a marre, quoi. On a marre de la corruption avant tout. Hein. La corruption, c'est d'abord le premier point pourquoi ils se révoltent, qui est énorme. On se rend pas compte, mais en Ukraine, en fait, elle est dirigée par 5 milliardaires. C'est pas, même la France à côté, c'est rien. Hein. T'as vraiment 5 milliardaires qui dirigent l'Ukraine. Je pourrais vous raconter des histoires, mais c'est hallucinant vraiment. Et donc, ils se révoltent contre ce clan du Donbass, de Donetsk, pardon, c'est le clan du Donetsk, qui veut mettre la main mise sur toute l'économie, mais avec la mafia russe, avec la mafia de Poutine. Et donc là, tu as plein de gens qui descendent dans la rue. Que fait Poutine? Parce que c'est comme ses intérêts, hein, personnels quasiment. Il envoie des troupes masquées dans le Donbass, en Crimée, pour reprendre le contrôle, et il demande au parti communiste du coin, aux syndicats communistes, de créer des rébellions, de créer des émeutes, etc., un peu partout dans l'Ukraine, donc à Odessa, dans le Donbass, etc. Et il fait rentrer des armes dans le Donbass. Et tu vois, par exemple, Jacques Beau qui te dit « Oui, non, il n'y avait pas d'armes russes au Donbass. » Bon, déjà, Poutine lui a dit qu'il avait envoyé ses soldats dans le Donbass. Il a avoué lors d'une interview. Il a dit « Effectivement, en 2014, j'ai envoyé des soldats. » Et Jacques Beau va te dire « Mais non, il n'y avait pas de soldats au Donbass. » Mais le premier ministre de la Défense du Donbass, enfin de Donetsk, de la République populaire, hein, parce que c'est la République communiste, hein, la République populaire de Donetsk, c'est Igor Gorkhin, Strelkov, c'est un héros des guerres russes. Le gars, il n'avait jamais mis les pieds dans le Donbass. Et avant d'être donc le ministre de la Défense du Donbass, c'était l'officier traitant, enfin du GRU. Le GRU, c'est le service secret ukrainien. C'est lui qui était chargé de l'Ukraine. Il devient ministre de la Défense, mais Jacques Beau va te dire, mais non, dans le Donbass, c'est une révolte populaire, les Russes n'y sont plus rien. Le premier ministre du Donbass, comment il s'appelle déjà, j'ai oublié, Borodaï. Borodaï. Le type n'avait jamais mis les pieds, c'est un Russe, c'est un proche de Poutine, il n'avait jamais mis les pieds dans le Donbass. Et Jacques Beau va te dire, mais non, mais les Russes sont jamais rentrés dans le Donbass, c'est une révolte populaire. Et après, donc, les Russes donc, fomentent des émeutes, font tirer sur les soldats ukrainiens, et donc commencent à s'engager, ils arment des séparatistes, ils envoient des milices nazies, néo-nazis, les Russes envoient des milices néo-nazis, hein. Ils envoient des mercenaires sur place pour attaquer les soldats ukrainiens. Donc les soldats ukrainiens répondent. Et donc, en tout, il y a 13 000 morts. Mais attends, 13 000 morts, ça, c'est les chiffres de l'ONU. Hein. C'est les chiffres qu'utilisent en plus tous les pro-russes. Mais dans les 13 000 morts, quand tu regardes, il y a 4 500 morts de soldats et miliciens ukrainiens, 5 600 morts de soldats, miliciens, mercenaires russes, pro-russes, séparatistes. Mais en plus, dans ces 10 000 morts, en gros, il y a aussi beaucoup de mafieux, il faut dire la vérité, parce que c'est une énorme mafia. Et ensuite, tu as 3 300 morts. Sur ces 3 300 morts civils, un tiers est causé par les Ukrainiens, un tiers par les Russes et les pro-russes, et 30%, et 40%, on ne sait pas l'origine, parce que bon, c'est la guerre, tu as des missiles qui tombent, etc.
Donc, est-ce que l'Ukraine…
Une guerre civile, donc tu as une mini-guerre civile, et en plus, pendant les trois quarts de ces morts se font en 2014. Tu sais qu'avant l'invasion, en 2021, tu sais combien il y a eu de morts dans le Donbass, civils ?
Vas-y, dis-moi.
Il y en a eu 19. Donc, actuellement, il y a chaque jour, il y a 30 à 50 fois plus de morts à cause de la guerre de Poutine qu'il y a eu de morts dans le Donbass en 2021. 30 à 50 fois par jour, pendant toute l'année 2021.
Mais est-ce que l'Ukraine n'est pas aussi un pays pris en main par les ONG américaines, les ONG woke et progressistes, type Soros, qui à l'époque, rappelle-toi, a fait la révolution orange, enfin, a financé la révolution orange en Ukraine.
Alors, il a pas financé, il a participé, effectivement, c'est vrai. Mais il a participé à cette révolution orange. Euromaïdan aussi, les Américains, Soros et tout ont mis du pognon dedans. Mais si tu veux, Euromaïdan, pour moi, c'est comme les Gilets jaunes. C'est-à-dire que c'est la même révolution, sauf qu'ils ont aidé par les Américains. Là, les Gilets jaunes n'ont été aidés ni par les élites françaises, ni par les Américains, ni personne. Ils ont foiré. Mais Euromaïdan, c'est vraiment une révolte populaire à la base. D'ailleurs, on dit que les pro-russes, ils te disent que c'est un putsch. Mais trois mois après Euromaïdan, il y a des élections. Il y a des élections où les gens votent. Ils élisent un président, donc c'est pas un putsch. Puis moi, je dis aux gens, regardez les images de 2014. Mettez le nom du président de l'époque, c'est Yanukovych. Mettez Vilan Yanukovych. On a oublié ça, les gens oublient. Mais quand ils ont libéré les Ukrainiens, on visitait sa villa, Yanukovych, enfin villa ou maison, et on voit sa maison avec des robinets en or, avec un faux bateau dans un faux lac, etc. Mais c'est une propriété de dément. Il avait une propriété de dément et les gens visitaient ça, tout éberlué, parce que c'est pauvre l'Ukraine, c'est extrêmement pauvre. C'est comme la Russie aussi, c'est des pays extrêmement pauvres. Et tous leurs dirigeants mais sont blindés, vivent comme des nababs.
Oui, ils vont se dire pareil sur Zelensky. Hein.
Oui, mais Poutine, c'est pareil. Hein. Mais Poutine, c'est un niveau encore… Zelensky, c'est une merde à côté de Poutine. Hein. Quand tu vois Poutine et tous les gens qui sont autour, ils vivent, mais c'est même pas des nababs. Même à côté, c'est une pauvresse, le roi d'Arabie Saoudite. Ils vivent, mais tous les jours, dans des palais, des yachts, alors, etc. Non, mais il faut être galéré. Tu ne veux pas dire que Zelensky… vit comme un nabab et puis dire Poutine il est merveilleux, etc. Attends.
Mais est-ce que le fait que les droitards en France n'aiment pas, enfin une partie de droitards, parce que je sais que Daniel Conversano par exemple soutient l'Ukraine, est-ce qu'une partie de ces droitards français a pris fait écho aussi pour Poutine à cause de Zelensky qui est une sorte de progressiste certains disent qu'il est cocaïnomane. C'est un ancien acteur. Est-ce qu'il y a ça aussi? Est-ce que, par exemple, si le président ukrainien était une sorte de clone de Poutine, ça aurait changé dans l'esprit de certains en France?
Mais Poutine, d'accord. Alors, toi, tu parles de la droite fasciste alors, à ce moment-là, parce que Poutine, c'est pas
la droite démocratique et compagnie, quoi. C'est ça que je veux dire. Tu vois.
Oui, mais bon, alors ils sont contre les élections. Enfin, ils sont contre tout, parce que Poutine. Enfin, je sais pas. Regarde les amis qu'il a. Poutine, c'est qui? C'est la Chine communiste, la Corée du Nord, l'Iran. C'est les trois principaux alliés. Enfin, même la Chine n'est pas vraiment son allié. Enfin, à moyen terme. Mais d'où il a ses armes? De l'Iran, de la Corée du Nord. Enfin, c'est comme ses trois alliés. Le gars, il vient du KGB. Enfin, je sais pas. Non, c'est droit tard, il gueule sur... Attends, mais il gueule sur l'extrême gauche.
Parlons de Zelensky. Voilà. Oui. Est-ce que, justement, la figure de Zelensky n'est pas un repoussoir? C'est peut-être ça aussi. Parce que moi, j'essaie de comprendre ce que les uns et les autres pensent. Est-ce que peut-être la figure de Zelensky peut-être un chiffon rouge pour une grande partie de la droite française?
Et pourquoi ça oui, parce que c'est un Macron 2, oui, c'est un Macron bis.
C'est ça, voilà, peut-être ça.
Bah oui, mais bon, là, en ce moment, il défend nos valeurs, hein, la nation, la frontière, l'identité ukrainienne. Il parle que de ça actuellement, hein. Il parle pas d'LGBT, il parle pas d'autre chose. Donc, moi, si le gars, il change d'avis, il va sur mes positions, je vais pas lui cracher à la figure.
Mais parce regarde, on montre les images
qui crache sur nos
positions. Avec des talons, aiguilles, machin comme ça, bon, tu vois.
Bah, il était comique, attends. Et je vais te dire franchement, là-dessus, sur le fait qu'il était comique, la plupart des droitards qui lui reprochent ça adoraient Coluche et auraient aimé qu'il soit président de la République, et maintenant ils viennent cracher sur Zelensky parce qu'il était comique. Et entre nous, la plupart de nos politiques sont des comiques, autant prendre un professionnel, hein. Là-dessus, ça me choque. Là-dessus, tu vois, qu'il soit choqué par le fait qu'avant il était plutôt progressiste et Macron bis, je peux le comprendre. Mais qu'il était comique, je préfère un comique qu'un énarque, hein. Ça, c'est certain.
Mais par exemple, la question des obus qui sont tombés en Pologne. Alors, moi, il se trouve que ce soir, j'étais à une soirée et je reçois plein de notifications Twitter. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vu Twitter s'enflammer en disant, oui, c'est la Troisième Guerre mondiale. Les Polonais demandent la Troisième Guerre mondiale. Ils exigent la Troisième Guerre mondiale. J'ai dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Mes fils WhatsApp, pareil. Tout le monde devient fou. Je vois Pozzo, il devient fou aussi.
Ouais, mais Pozzo et tout. Non, mais Pozzo, il faut comprendre qu'il fait. Enfin, il faut comprendre quand même. Tu vois, par exemple, Gentillet, qui est un pote de Xavier Moreau. Enfin, non, je réponds à ta question, ouais. D'abord sur les missiles. Mais là, c'était excellent parce qu'on s'est rendu compte de comment fonctionnaient les pro-russes. C'est-à-dire qu'il y a un missile qui tombe sur la Pologne. Tout de suite, Philippot, ça rime avec Colabo, hein. Philippot dit « Oui, la Pologne est hystérique, veut nous emmener dans la guerre. Ouais, » il n'a rien dit, la Pologne. Et juste après, le président dit « Il faut se calmer, on ne sait pas encore si c'est un tir russe. » A priori, c'est même pas un tir russe. Donc, première chose. Deuxième, donc une fois que les Polonais disent ça, les pro-russes disent « Ah oui, non, mais c'est une attaque sous faux drapeau, les USA vont faire croire que c'est la Russie qui a attaqué. » Qu'est-ce que font les USA? Ils disent mais non, mais non, c'est pas une attaque russe, c'est les Ukrainiens. Qu'est-ce que répondent les pro-russes? Les USA ont peur de la Russie. Mais tu vois, ça tourne tout le temps en rond, quoi. Ils se mordent la queue.
Il faut dire aussi une chose. Je voudrais dire une chose aux gens qui ne connaissent pas les Polonais. Mais en Pologne, on n'est jamais hystérique.
Non, c'est pas le cas. Ouais, c'est pas.
Voilà, c'est
pas
c'est doux, jamais hein. Le cas, les gars. Jamais.
Et attends, parce que j'ai un gars là qui me dit Xavier Moreau est au type, c'est nul ce que vous dites. Alors, Xavier Moreau,
voilà. L'exécuteur nous dit, voilà, elle dit, ils sont restés très calmes en Pologne en vrai. Et c'est vrai. Parce qu'en Pologne, voilà, il n'y a pas de débat comme il y a en France où des gens se crient dessus ou je ne sais pas quoi. Ça n'existe pas, sachez-le. Voilà, ça n'existe pas. Et je l'ai même dit. Je l'ai redit à Bistro Liberté parce que à Bistro Liberté, on m'a branché sur les obus. Voilà, Bistro Liberté avec Laurent Berton, n'hésitez pas à le voir. Personne n'était hystérique et Duda, qui est le président de la République, a été, pour dire les choses, très calme et très serein et a dit voilà, nous attendons l'enquête, machin. Voilà, bon. Et moi-même, tu vois, ça m'a. Quand j'ai vu tous ces trucs sur Twitter, j'ai dit putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et donc, je suis allé sur TFP Info, tu vois, voilà, et TFAON 24. Et du coup, j'ai traduit des trucs et les gens me sont tombés dessus. Ah, tu racontes des conneries, machin. Bon, bref. Je trouve ça, c'est ici qu'on est hystérique. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, peut-être, mais juste une chose, parce qu'il y a un gars qui me compare, qui dit Xavier Moreau, lui au moins dit la vérité. Xavier Moreau en février, hein, c'est, vous pouvez le voir, c'est sur sa vidéo, donc c'est, tout le monde peut le vérifier. Zelensky va s'effondrer. Les Ukrainiens n'ont pas envie de faire la guerre aux Russes. Attends, il te disait ça, hein, février, Xavier Moreau. Les USA vont lancer une offensive dans le Donbass pour faire une épuration ethnique. Xavier Moreau écrivait ça. Hein. Scholz est l'homme de la situation. Toujours fin février, le ministère de la Défense russe, la résistance est minime. La plupart des unités ukrainiennes voulaient juste un corridor pour rejoindre leur famille en abandonnant leurs armes et que seuls ceux qui se battaient étaient des ukro-nazis, qui étaient environ juste 10 000 combattants. Attends, mais c'est vrai ce que je raconte. Hein. Quand tu lis ça, tu dis, c'est pas possible, il n'a pas pu dire ça, Xavier Moreau, il n'est pas si con que ça. Hein. Et ça va durer pas très longtemps. Bulletin du 68, blitzkrieg russe en Ukraine. En quelques jours, les troupes russes se sont emparées du territoire. L'armée ukrainienne avait régressé, les Russes ont progressé. Plus de défense ukrainienne, juste des bandes armées et Kiev qui va tomber. Pour avoir un gain politique, il s'est enfui. Zelensky s'est enfui à Lvov. La Russie est en passe de l'emporter. La mâchoire russe va se refermer sur l'Ukraine de l'Est. Enfin, il y a encore trois jours avant que Kherson tombe, t'as Xavier Moreau qui disait mais Kherson ne tombera jamais. Pourquoi ? Parce que ça doit être la tête de pont pour envahir Odessa. Et t'as tous les gars là qui me disent. Alors c'est intéressant parce que bon, outre le fait que je me fous de sa gueule parce qu'il dit, il s'est trompé sur tout.
Bon, il a quand même gentiment accepté de débattre avec toi. Bon.
Oui, bravo. Et remarque moi que moi, j'ai dit que Kiev ne tomberait pas et tous les pro-russes là qui sont sur le côté disaient, tu dis n'importe quoi. J'ai dit que l'armée russe était une armée de baltringues. J'ai dit que les Russes ne pouvaient pas gagner. J'ai dit que l'Ukraine allait reprendre le combat, qu'en septembre, ils allaient faire tomber une partie de l'armée russe. J'ai dit tout ça. Par contre, ils le disent jamais, les pro-russes. Mais ce qui est intéressant avec Xavier Moreau, parce que tu me dis non, les autres, ils sont pas tous à acheter. Mais Xavier Moreau gagne sa vie en Russie grâce au pouvoir russe. Il est même embauché par Russia Today. Xavier Moreau, c'est qui son meilleur pote? Pierre Gentillet qui est sur CNews. Ah, pardon, mais il est aussi chez toi, je suis désolé. Il est chez Bistro Liberté.
Non, il est chez Bistro, il est pas chez moi. C'est moi qui est patron de Bistro Liberté.
Alors tu me dis, c'est pas des traîtres. Mais quand même, il y a Nicolas Hénin qui a fait un livre qui s'appelle La France russe. Il faisait des réunions avec l'officier du GRU à Paris. Le GRU, donc les services
secrets. Nicolas Hénin, le journaliste de BFM.
Peut-être, je sais pas. Attends, je vais finir. Il est peut-être de BFM, mais attends, écoute bien ça. Donc, il faisait des réunions avec le GRU. Rappelle-moi, c'est quoi le métier de Gentillet ?
Il est avocat.
L'avocat. Ce type, il fait un livre qui est toujours édité, qui est toujours vendu, qui dit que Gentillet fait des réunions avec le GRU. Le GRU, donc les services secrets.
C'est le GRU.
Le GRU, c'est les services secrets, c'est les services de la défense, services secrets du ministère de la Défense russe. Donc c'est
le top niveau. Nicolas Hénin, il n'est pas super fiable parce que moi, je vais te dire, Nicolas Hénin a porté plainte contre moi à l'époque pour diffamation parce que j'avais dit qu'il avait un syndrome de Stockholm avec les djihadistes, ce qui est vrai. Et il se trouve que j'ai gagné sans avocat en première instance et en appel. Donc bon, Nicolas Hénin,
là-dessus, tu peux pas dire que c'est une mauvaise information. C'est toi qui as donné une information et lui il disait qu'elle n'était pas vraie. Donc, c'est pas la même chose. Mais non, mais attends, mais Nicolas Hénin, le gars, il écrit un livre. T'es avocat. T'as un gars qui dit que tu travailles pour une puissance étrangère, pour la puissance russe. Tu lui fais pas un procès si c'est pas vrai?
Je ne sais pas.
Non, mais attends, c'est un livre qui a été paru, qui a été vendu à des milliers d'exemplaires. Tu fais pas un procès au gars qui te fait ça? T'es avocat?
Oui, théoriquement, oui. Oui.
Ah, bah voilà. Et pourquoi il lui fait pas un procès? Donc, ces gens-là, ils traînent dans des cercles, dans des clubs payés par des entreprises russes. Avant, le club dont je parle, c'est le cercle Pouchkin, c'est le dialogue franco-russe qui fait ça. Où étaient les bureaux du dialogue franco-russe? Sur les Champs-Élysées, tu avais Thierry Mariani, tu avais Pozzo di Borgo et Gentil qui en font partie, qui participent beaucoup. Qui payait tout ça? Des entreprises russes? Des grandes entreprises russes?
Oui, mais est-ce que le dialogue… Enfin, moi, je connais pas bien le dialogue franco-russe, donc je vais poser la question de façon très candide. Est-ce que le dialogue franco-russe, je crois, qui a été créé par Jacques Chirac, enfin, ou sous Jacques Chirac, est-ce que c'était un truc à la base pour qu'il y ait des relations apaisées entre ces deux pays, ou est-ce que c'était quelque chose de… Ou est-ce que c'était un organisme de lobbying?
Ah bah c'est toujours la même chose avec les Français, tu sais, que ce soit avec l'Allemagne, les États-Unis ou la Russie, eux ils créent des organismes de dialogue et les autres créent des organismes de lobbying. Donc que ce soit l'Allemagne, les États-Unis ou la Russie, à chaque fois qu'on crée nous un organisme, on y va benoîtement comme des bisounours, mais les autres, eux, ils y vont pour faire du lobbying et pour reprendre des marchés. Ils n'ont pas du tout la même mentalité. Nous, on abandonne toute idée de puissance, c'est ce que je te disais. Donc, ces organismes, oui, au début, Chirac, il le crée dans une bonne intention pour faire du dialogue. Mais les Russes, eux, le créent pour mettre la mainmise sur des influenceurs qui vont relayer leur narratif. Et c'est ce que fait Pozzo di Borgo, c'est ce que fait Gentillet, c'est ce que fait Xavier Moreau, c'est ce que fait Thierry Marigny. Ils relayent le narratif russe. Ils ne relayent pas le narratif français en Russie, ils relaient le narratif russe en France. Et ce sont des Français. Je voudrais que les gens comprennent ça. Alors, je comprends que ça. Alors, le gros problème actuellement, c'est que tout le monde veut qu'on leur donne des informations qui soient conformes à ce qu'ils pensent. Les progressistes ne regardent que BFM TV parce que ça leur donne des informations conformes à ce qu'ils pensent. Les non-progressistes regardent que la Réinfosphère, qui est pro-russe, pour qu'elle leur donne des informations comme ils pensent. Mais non, il faut regarder toutes les informations et essayer de les comparer. Tout ce que je vous ai dit, vous pouvez le vérifier. Arrêtez, faites des arrêts sur image, écoutez ce que je dis 2 secondes, allez vérifier par vous-même, s'il vous plaît. Vous verrez. Je pense que c'est important quand même pour vous de pas rester dans ce mensonge, continuer. Le problème des gens, c'est qu'ils se disent, voilà, BFM dit ça, donc c'est faux. Pas forcément. La réinfosphère, actuellement, vous ment sur la Russie. La réinfosphère,
C'est-à-dire
les
que pour toi,
influenceurs vous mentent.
comme Macron et Biden et BHL sont favorables à l'Ukraine, donc du coup, les gens, par envie d'opposition, se disent, ah, eux sont favorables à l'Ukraine, je me dois d'être favorable à la Russie, c'est ça, d'après toi?
Ben, c'est exact. Il y a plus que ça. C'est-à-dire qu'après, tu as aussi beaucoup d'influenceurs français de droite qui, depuis longtemps, sont travaillés par la Russie. D'abord par Russia Today. Russia Today a été un formidable, comment dire, outil pour les Russes, pour identifier les gens, pour savoir avec qui ils couchaient, pour savoir qui était leur dealer, pour les payer. Tu sais qu'en gros, un influenceur pro-russe, mais quand je dis influenceur, c'est un vrai, c'est pas toi ou moi, c'est des gens. Enfin, toi, tu es un
Moi, je
vrai
suis pas
influenceur.
influenceur pro-russe. Vous
Et
arrêtez
voilà.
pas de me faire des
Mais
trucs, là.
il gagne 8 000 euros par mois. C'est quand même
D'accord.
8 000 euros par mois, hein. 8 000 euros par mois. Juste. Et après, il y a ses autres cachets, des autres chaînes, des journaux où il travaille etc. Pour rédiger dans une biographie de Poutine, pour rédiger une intro sympathique, c'est 50 000 balles. 50 000 euros. Donc, il te paye comme
D'accord.
ça. Après, tu as des voyages en Russie, on t'offre des montres. T'as des voyages, quand tu pars en Russie, tu as des voyages en première classe dans des hôtels de luxe.
Les chiffres de 8 000 et 50 000 euros, c'est quelque chose qu'on t'a dit? Comment tu sais?
Oui, c'est des gens du milieu, des gens en plus de ton milieu, des gens que tu connais. Je ne veux pas te le dire là parce qu'ils veulent pas qu'on donne leur nom, mais c'est des gens, c'est que des gens que tu connais. Et chacun m'a confirmé, c'est des gens différents qui m'ont confirmé ces news. Le fait aussi, par exemple, que une bonne partie des gens qui étaient sur le Russia Today sont toujours salariés, sont toujours payés, ça m'a été aussi confirmé par plusieurs sources. Donc tous ces gens-là qui gagnent une fortune, tu te rends compte aussi quand t'as des bureaux sur les Champs-Élysées, même si t'es pas payé, c'est sympa de recevoir tes clients, recevoir tes amis dans des bureaux sur les Champs-Élysées, d'avoir une secrétaire qui peut prendre des rendez-vous pour toi, c'est aussi un avantage en nature. Quand tu pars, je sais pas, dans tel pays, tu fais un reportage, n'importe quoi, on te paye l'hôtel, l'avion, ça te fait des points, des miles. C'est cool tout ça, mais tout ça à la fin. T'as pas envie d'en sortir. Quand tu es invité tous les ans à l'ambassade de Russie, que tu manges de l'ours au miel, mais c'est des réalités. Ils arrivent avec des gros ours, tout fait avec du miel, nappé, ils te le font manger. T'as pas envie de plus être invité. Moi, par exemple, j'ai été approché par le Chateau des plusieurs fois. À chaque fois, mais c'était des bombes qui m'ont
Bah,
approché.
raconte-nous, tiens, ça je veux savoir.
Oui, mais
T'as
moi, j'ai
fait
tout de suite dit non. J'ai dit non, non, ça m'intéresse pas. Mais
mais
oui,
qu'est-ce qu'ils
j'étais.
t'ont
Alors, ils m'ont.
quand je te
D'abord,
paye
ils ont
ta visite,
essayé.
qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Parce que
Alors,
moi,
d'abord,
quand je te paye, il m'a jamais contacté, par exemple, hein,
Ah ouais,
tu vois.
bon, ils ont pas arrêté, moi. Ils m'ont dit oui, c'est un tel qui m'a dit que je devais vous contacter parce que vous étiez intéressant. Ou alors, ah
Est-ce
oui,
qui
j'ai
c'est
vu.
la présidente là, je sais plus comment elle
Non,
s'appelle.
j'ai oublié. À chaque fois. Enfin, une fois c'était un homme. La première fois c'était un homme. C'était un journaliste
D'accord.
qui
Français?
était belge de Spoutnik, je crois, de mémoire. Et après ça a été que des femmes. Et sur LinkedIn aussi, ils m'ont contacté. Quand tu voyais leurs photos, que des bombes.
Ah ouais?
Ah oui, non
Mais
mais c'est
dis-moi, c'est des
hallucinant.
bons, t'as possible quand même. Quelle bonne demande.
Et donc, tu comprends tout de suite, quoi. Tu vois tout de suite la façon dont il t'approche, ce serait bien, vous êtes merveilleux, etc. Et puis, c'est tout milieu le bon. Enfin, tu me diras, c'est peut-être normal aussi.
C'était des vraies filles ou c'était des fausses photos?
Ah non, rédactrice en chef, des choses comme ça. Productrice, oui, c'est beaucoup des productrices qui m'ont productrice de Russia Today.
D'ailleurs, ce que je trouve bizarre à Russia Today, c'est la présidente. C'est-à-dire qu'ils ont mis une fille, genre mannequin, tu vois, présidente, ça me paraît assez bizarre. Bon, enfin bon.
Ah non, mais écoute, je sais pas moi, qui a créé Russia Today? C'est Poutine. Poutine vient d'où? Du KGB. Comment on peut imaginer que ce n'est pas un outil d'influence? C'est-à-dire que même si les gens ne sont pas vendus à Russia Today, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu arrives, il y a des méthodes pour même pas toucher ton ordinateur et regarder ce qu'il y a dedans. Ils regardent ton ordinateur, ils regardent ton téléphone. Peu à peu, ils écoutent les conversations. Ils savent, après moi, il suffit que je passe une semaine à Paris, je sais qui couche avec qui, tout le monde. Zemmour, etc. On sait tout sur lui. Enfin, il y a des choses que tu dis jamais, mais bon, on sait tous plein de choses. Et t'imagines bien que tous les gens qu'ils ont inventés, ces influenceurs, c'est des gens qui sont au cœur du réacteur non progressiste, on va dire, l'intelligentsia non progressiste. Ils savent donc tout. Qui est à tel dealer, qui va dans les boîtes échangistes, parce qu'il y en a un paquet quand même, hein, qui couche avec qui a tel truc au cul, qui doit de l'argent à bidule et machin. Donc, quand t'as ces renseignements-là, tu fais ce que tu veux de ces gens-là. Donc, c'est
mais
pas
mais forcément. Mais alors, regarde, j'ai une question. J'ai une question de Keira qui nous dit. Mais Anne-Laure Bonnet, elle aurait menti? Parce que Anne-Laure Bonnet, elle est quand même allée dans ces coins-là. Elle a quand même montré des choses. Elle a pas menti quand même, Anne-Laure Bonnet. C'est même une journaliste, je crois, sérieuse, non?
Comment tu peux dire que Anne-Laure Bonnet... Enfin bon, moi je l'ai écouté, j'ai essayé vraiment d'écouter un maximum d'informations venant de sa part. Mais elle est incapable déjà, quand elle fait un discours... de séparer, quand elle était en 2014, 2021, 2022, son discours, c'est on dirait qu'elle est dans une même unité de temps, une même unité de temps, une même unité de lieu. Tu comprends rien, c'est complètement hystérique quand elle parle. Elle te dit « oui, j'ai été bombardé là, etc. Et » là. Mais en fait, c'est en 2014, c'est pas aujourd'hui. Et elle te dit, tu vois, c'est comme ça, elle n'a jamais un discours raisonné, calme, où elle t'explique vraiment les choses. Elle mélange tout, elle mélange les années. Elle a été trois fois, je crois, dans le Donbass, 2014, 2021, 2020. Et elle te mélange les trois, comme si c'était encore hier, 2014. Alors, c'était une autre situation, c'est ce que je vous expliquais, la situation de 2014, que la situation de 2020. Elle va jamais vous dire qu'en 2021, il n'y a quasiment pas eu de bombardement du Donbass. Que depuis que Zelensky est au pouvoir, tu vois, même Jacques Sapir, tu vois, qui c'est Jacques Sapir, c'est un ultra pro-russe, on va dire. Il a même écrit, je peux te donner le papier, où il disait que Zelensky a beaucoup fait pour le Donbass, pour apaiser les choses dans le Donbass. Il a écrit un papier comme ça, Jacques Sapir. Maintenant, il change d'avis, etc. Mais je peux te donner le papier. Il disait ça, même lui avouait que Zelensky a fait beaucoup pour apaiser la situation dans le Donbass, qu'il avait fait énormément, que jamais personne n'avait fait autant que lui. Et tout d'un coup, Poutine envahit à cause de ça. Non, il faut arrêter de délirer.
Mais regarde, est-ce que c'est parce que tu habites en Pologne, que tu t'es quand même assimilé un peu à la Pologne, que tu es sur ce discours-là? Est-ce que, par exemple, si tu avais été en France et tu n'aurais aucun lien avec la Pologne, est-ce que t'aurais eu un discours différent?
Oui, bien sûr, puisque moi, quand j'étais en France, j'avais la même vision romantique de la Russie. En fait, je pensais que c'était comme nous, des Occidentaux. En fait, pas du tout, ce sont des Orientaux. Une fois que tu arrives en Pologne, tu commences à avoir des relations avec les Polonais, avec les peuples de l'Est, etc., avec les Slaves. Tu te rends compte qu'en fait, alors, tout le monde va me tomber dessus, mais je m'en fous. C'est vraiment un peuple de sauvages, les Russes. C'est un peuple de barbares. C'est des gens qui adorent les tyrans. Ils ont une mentalité orientale. C'est une fois, tout le monde est tombé dessus parce que j'avais dit qu'en gros, les Russes, c'est la même chose que les Arabes. Ils adorent le pouvoir fort. Si tu veux, quand tu regardes, c'est que
donc
du
dirigeant
en quoi. Russie. Il n'y a pas de citoyens en Russie. Il n'y a que des sujets. Et on obéit à l'État. On veut un maître, quelqu'un qui est fort.
En France, on obéit à l'État aussi. Hein. Je veux pas dire.
Oui, c'est vrai, mais bon, t'es quand même un citoyen, t'es pas un sujet. T'es pas un sujet de l'État, t'es un citoyen de l'État quand même, malgré tout.
Oui, parce que c'est la République, mais t'es sujet du roi, par exemple. Bon, voilà, bon, ça. Bon, pas, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que la Pologne t'a quand même changé, malgré tout. C'est-à-dire que t'aurais été en France, t'aurais été un pot de Zodiborko, peut-être.
Peut-être, oui, qui sait ou non, c'est vraiment pas impossible, hein. C'est vraiment pas impossible, mais parce que il y a plein de choses que tu apprends, tu lis beaucoup plus, tu sais, moi quand j'étais en France, je n'avais rien à faire de la Russie, j'aurais dit ça de façon très loin, une fois que tu es sur place, que tu vois ce qui se passe, moi je dois faire des analyses pour les entreprises, où je travaille pour les grands groupes, je leur fais des analyses, et donc je dois leur expliquer pourquoi il faut investir en Russie, pourquoi il faut pas investir, pourquoi il faut investir en Ukraine, moi j'ai toujours déconseillé d'investir en Ukraine jusqu'à présent. Donc, j'avais toujours dit aux entreprises, n'y allez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a, un manque de transparence qui est trop important. Et deuxièmement, enfin, je te le fais rapide, hein. Et deuxièmement, parce que la Russie a des ambitions impériales sur l'Ukraine et qu'à un moment ou à un autre, ça va péter. Donc, si tu veux, effectivement, je me suis renseigné. Mais j'aurais pu me renseigner de France aussi. Si ça tombe, j'aurais eu la même idée. C'est juste que quand j'étais en France, ça m'intéressait pas spécialement la Russie. Tu sais, moi, j'écoutais comme font la plupart des gens, et c'est pour ça que j'essaye de leur dire que vos influenceurs vous trompent.
C'est-à-dire que toi, tu avais une vision un peu romantique de la Russie.
Oui, comme l'ont les gens actuellement, les Français.
Voilà,
actuellement.
Donc tu pensais, je sais pas moi, à Dostoïevski, à Tolstoï, j'imagine, à ça, parce que c'est, à Tchaïkovski, parce que surtout, moi, ce que je remarque, les gens qui aiment la Russie en France, surtout te citent les grands auteurs qu'ils ont eu, quoi. Enfin, parce que voilà, parce que ouais. Où ils te parlent de Saint-Pétersbourg, bon, parce qu'après le reste, je sais pas ce qu'il y a eu de positif fait par la Russie, donc bon.
Moi aussi.
Voilà, donc ils te parlent de ça.
Tu peux pas le savoir sans t'y intéresser, en fait. Tu peux pas le savoir sans t'y intéresser. Moi, j'invite vraiment les gens à s'intéresser à l'histoire russe. Vous verrez déjà que les racines des Russes, c'est la Horde d'or, c'est Genghis Khan, c'est les Mongols, en fait. Les Russes, jusqu'au XIIIe siècle, étaient sujets de la Horde d'or, donc des descendants de Genghis Khan. C'est quand même, quand ils pensent. Et là, tu comprends plein de choses. Quand tu te rends compte de ça, tu comprends mieux la façon, l'histoire russe, en fait, pourquoi ils ont tellement de tyrans, pourquoi ils sont si horribles, pourquoi ils ont un tel mépris des autres, et pourquoi ils ont un tel mépris de la vie aussi.
Moi, je suis comme toi, je ne porte pas les Russes dans mon cœur, je l'ai dit, hein, je l'ai même dit à Bistro Liberté d'ailleurs, je leur ai dit, parce qu'on va parler de l'économie russe, je leur ai dit, écoutez, parce qu'on m'a dit, ouais, non, peut-être la Russie va reconstruire la France, j'aurais dit, écoutez, les gars, d'être gentils, la Russie n'a jamais rien construit, même chez eux. Bon, et je leur ai expliqué une histoire que j'avais eue, des histoires quand j'étais môme en Pologne, où je voyais que lorsque le communisme était tombé, les soldats russes pleuraient, hein, ils pleuraient parce qu'ils devaient rentrer en Russie parce qu'ils savaient qu'ils allaient manger des cailloux là-bas. Bon. Et ça, j'ai dit à Bistro Liberté quand il y avait Charles Gave. Charles Gave, il a fait les yeux comme ça, tu vois. Enfin bref. Mais je ne peux pas blairer les Ukrainiens. Et ça, je ne le comprends pas, ça. Ça, les Ukrainiens, c'est quand même… pour moi, c'est quand même compliqué. Parce que les Ukrainiens… pour moi, je vais te dire une chose. Les Ukrainiens, c'est des Russes, mais encore englandus, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois?
Qu'est-ce que je te dis?
J'ai pas tort quand même. Bon, un peu d'humour quand même.
Oui, d'accord. Non, mais si tu veux, c'est certain qu'un Ukrainien est plus proche d'un Russe que d'un Polonais, par exemple. Enfin, jusqu'à présent, c'était le cas. Les Ukrainiens, il y a beaucoup d'orthodoxes. Contrairement à ce que disent certains, ce n'est pas une guerre de civilisation entre les catholiques ukrainiens et les orthodoxes russes. Les Ukrainiens sont aussi orthodoxes que les Russes. Je ne sais pas si c'est le même pourcentage, mais il ne doit pas être loin. La seule chose que n'ont pas les Ukrainiens qu'ont les Russes, c'est les musulmans et le pétrole. Donc voilà, c'est tout. Effectivement, les Russes ont essayé de détruire la culture ukrainienne, ont interdit l'ukrainien, ont interdit de le parler, ont vraiment persécuté le peuple ukrainien et ont essayé d'imposer leur vision des choses. Alors aujourd'hui, on te dit qu'on veut dérussifier. Non, les Ukrainiens veulent désoviétiser, effectivement. Leur pays.
Revenons à du sérieux, parce que souvent on nous dit, voilà, par exemple, il y a eu cette résolution sur le nazisme, et bon, la Pologne a voté contre, la France a voté contre, je crois les États-Unis aussi. Qu'est-ce que c'est cette résolution sur le nazisme qui a été présentée à l'ONU?
Moi, j'invite vraiment tout le monde à aller la lire, parce que c'est intéressant, c'est un peu long, il y a 68 articles, 70 articles, je ne sais plus. Et c'est très intéressant parce que, en gros, la moitié des articles, je pense que tout le monde va signer dès demain, c'est contre le nazisme, c'est contre la négation de l'Holocauste. Et c'est marrant parce que ceux qui ont signé cette déclaration, il y a la Libye, il y a l'Algérie, il y a la Syrie, je crois qu'il y a l'Iran, peut-être pas l'Iran. Enfin. Et en tout cas, ces gens-là qui, chez eux, il y a la négation totale de l'Holocauste, qui sont antisémites au possible, te signent cette déclaration. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est les 50% qui restent. Sur les 50% qui restent, il y a 90%. C'est en fait des vœux de bonne intention en disant il faut pas être antisémite, il faut pas être islamophobe, il faut pas être christianophobe. Donc, tu vois, en France, normalement, on ne peut pas là, signer cette déclaration parce que ça voudrait dire qu'on n'a pas le droit de critiquer le christianisme, on n'a pas le droit de critiquer l'islam, on n'a pas le droit d'être judéophobe parce qu'il y a antisémite et judéophobe. Donc, on n'a pas le droit de critiquer la religion israélite. Donc, Tu vois, c'est quand même un peu problématique. Bon, ça, c'est pas. Et puis, ils te disent aussi, on ne peut pas critiquer le fait qu'on refuse les migrants. Enfin, ce genre de choses. C'est... Et surtout, il y a des trucs en disant, il faut éviter absolument les discours de haine. Il faut que sur Internet, etc., on censure l'Internet quand il y a des discours de haine. Donc, ça, tu me diras, la France pourrait le signer dès demain aussi, hein,
Ah
parce
oui, voilà,
que.
donc
Voilà. Donc, tu vois, quand tu
pourquoi
as
n'a-t-il pas été
Asselineau,
signé?
quand tu
Parce
as
que moi, j'ai vu des
Podolibor.
gens
Ah non,
s'insurger aux Philippines.
c'est pas fini, c'est pas le plus
Ah,
rigolo, parce
vas-y.
que t'as Asselineau, Pozzo di Borgo, Philippot, qui disent que c'est nul que la France n'ait pas signé, mais qui lisent cette résolution, j'invite tout le monde à la lire. Cette résolution condamne les discours de haine, quels qu'ils soient, et qu'il faut absolument tout faire pour qu'on n'en ait pas sur Internet et sur les médias, etc. Et enfin, il y a trois articles. Et c'est pour ça qu'en fait, la France, pour tout le reste, elle aurait pu le signer finalement, la France, hein. Encore l'islamophobie, la christianophobie, ça peut l'embêter par rapport à sa loi sur la laïcité, parce que bon, on a le droit normalement de critiquer la religion. Mais bon, de toute façon, pourquoi la Pologne l'a pas signé? C'est parce qu'en fait, c'est qu'elle dit, en fait, résolution dans trois articles, elle dit qu'on ne peut pas porter atteinte aux monuments à la mémoire des combattants du nazisme. Donc ça veut dire que si jamais il y a un monument de Staline en Pologne, comme il a combattu le nazisme, on ne peut pas le déboulonner. C'est-à-dire que tous les pays de l'Est actuellement déboulonnent leur statut, tu sais, comment dire, d'impérialiste de l'armée rouge, etc. Et toute personne qui a combattu enfin, le nazisme, on n'a plus le droit de les critiquer et on n'a plus le droit de déboulonner leur
Mais
statut.
ça pourrait être Churchill ou Jean Moulin, par exemple.
Aussi, oui, on n'aurait pas le droit pour Churchill et Jean
Oui,
Moulin,
parce
mais
que
Staline
là,
aussi,
tu
surtout
diras, ah,
ça.
mais c'est Staline. Bon, là,
C'est-à-dire
ça pourrait être
que,
Jean Moulin.
oui, mais d'accord, mais à cause de cette résolution, tu n'aurais plus le droit d'enlever une statue de Staline. Tu n'aurais pas le
D'accord.
droit de critiquer Staline.
Et quelles sont les deux autres résolutions qui posent problème?
Mais je t'ai tout dit, en gros, il y a la moitié, c'est tout le monde est d'accord sur le nazisme,
Non, non,
contre le
parce que tu m'as dit
nazisme.
qu'il y a trois résolutions qui posent problème. Donc, la première, c'est les
Non, non,
combattants.
je dis, il y a trois points dans cette résolution. Pardon, il y a trois points. Trois
Ah.
points dans cette résolution. Il y a la moitié qui est sur le nazisme, que tout le
D'accord.
monde va signer. Enfin, voilà. Ensuite, il y a une partie, c'est à peu près 90% de l'autre moitié, qui est sur les discours de haine. Ce qu'on a, ce que tout le monde
D'accord. Et après,
dénonce,
c'est les combattants.
il n'y a rien faut se faire. Et après, on n'a pas le droit de déboulonner les statues, de critiquer Staline, etc.
Et qui a lancé cette résolution? Est-ce que c'est un
La
pays en
Russie.
particulier qui a lancé
La
cette
Russie.
résolution? C'est la
La Fédération
Russie.
de Russie. Tous les ans, elle propose cette résolution, tous les ans.
Et pourquoi elle la propose, cette résolution? C'est justement pour glorifier son histoire par rapport à la Seconde Guerre mondiale, c'est ça?
C'est ça, elle veut pas qu'on dise du mal de Staline, elle veut pas qu'on dise du mal de l'armée rouge qui a quand même asservi plusieurs peuples, en fait, c'est ça, le but, c'est ça. Et puis surtout, c'est le but, c'est de justifier son invasion de l'Ukraine en disant, mais écoutez, dans l'Ukraine, il y a des. Ce qu'elle a dit, c'est pas vrai, mais bon, qu'il y a des néo-nazis, et c'est pour ça qu'elle veut dénazifier l'Ukraine. Donc
Est-ce que
elle
ça
essaie
c'est
de
vrai
trouver.
ça sur les nazis?
En Ukraine?
Est-ce que c'est par exemple on parle souvent de ces Azov? Est-ce que ça c'est une réalité?
Oui, enfin, Azov existe, effectivement, mais si tu veux, Azov, au début, c'est quoi? Au début, c'est effectivement, il y a à peu près 20% de néo-nazis, je crois, enfin, en tout cas, qui se déclarent eux-mêmes néo-nazis. Mais quand je te dis au début, c'est dans les années 2010, etc. Donc, il y a Euromaïdan, la révolution dont je t'ai parlé en 2014 qui arrive. Et là, tu as les forces de sécurité qui sont tous des ex-soviétiques, hein, les patrons, les gens dedans, des anciens de la nomenklatura. Et ils tirent sur les manifestants. Un peu ce qui s'est passé en France sur les gilets jaunes. Ils tirent sur les manifestants. Et il n'y a personne qui est formé parce qu'il n'y a personne qui est. En gros, les soldats, c'est les gens qui viennent de la nomenklatura, etc. Et donc, il n'y a qu'une seule milice qui a une formation militaire. C'est Azov. Azov qui a été notamment entraîné par les USA. Et pourquoi les USA entraînent? Parce que les USA, en général, quand ils rentrent dans un pays anciennement communiste ou communiste, eh ben, ils vont vers les nationalistes. Parce que les nationalistes, on considère qu'ils ont une idéologie et qu'ils vont préférer leur idéologie plutôt que l'argent. Et qu'ils ne vont pas réussir à se faire corrompre et qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur idée. Donc, les manifestants sont protégés par Azov. Il faut se rendre compte de ça quand même dans la mentalité ukrainienne. C'est-à-dire que les seuls qui ont été capables de répliquer contre les forces, imagine les CRS quand ils tiraient, etc. Imagine qu'il y ait une milice qui arrive et qui ait réussi à répliquer et empêcher les CRS de crever des œils, de frapper les gens. Ben, Azov a protégé les gens. Ça a empêché des massacres. Azov a empêché des massacres totaux en 2014. faut se rendre compte de ça quand même. Tu avais donc l'armée soviétique, en gros, hein, ex-soviétique, qui voulait dégommer tout le monde. Et Azov a empêché ça. Et donc ensuite, Azov, les gens ont aimé plutôt Azov. Hein, c'est devenu une partie de l'armée. Elle a été intégrée à l'armée ukrainienne. C'est devenu une partie de l'armée ukrainienne plutôt d'élite. Donc c'était plutôt sympathique d'y entrer. Et ensuite, Zelensky, quand les Russes ont commencé à vouloir envahir l'Ukraine, en fait, il a été confronté à un problème important, c'est qu'il avait le choix entre les généraux plutôt corrompus, anciens soviétiques, on va dire, et les nationalistes. Il savait que les généraux nationalistes, que les dirigeants nationalistes, enfin, dirigeants, les quatre supérieurs nationalistes de l'armée, n'allaient pas le trahir. Il avait très peur, en fait, que les généraux anciennement communistes ou en tout cas proches des soviétiques ou corrompus le trahissent. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris que des nationalistes parce qu'il savait qu'ils ne trahiraient pas et qu'eux allaient se battre jusqu'au bout contre les Russes. Et il a eu raison. C'est pour ça. Rappelle-toi, en 2014, l'amiral, il y a un amiral ukrainien qui est passé du côté russe. Enfin, t'imagines quand même. L'Ukraine est attaquée, la Russie annexe la Crimée et lui, il passe avec son sous-marin chez les Russes. Et Zelensky a eu très peur de ça. Il s'est dit, moi, je vais prendre que des nations parce que eux, ils vont pas pouvoir se faire acheter par l'argent parce qu'ils ont une vraie idéologie. Ils vont vouloir défendre l'Ukraine au péril de leur vie. Et c'est ce qu'il a fait.
Mais lorsque, par exemple, M. Arnaud Klarsfeld, critique l'Ukraine en disant, voilà, on ne peut pas amener des Ukrainiens en Union européenne parce qu'ils glorifient encore des Pandera qui ont travaillé avec l'Allemagne et des gens de cet acabit. Toi, qu'est-ce que tu lui répondrais?
Qu'il n'y a pas tort, que c'est une question qui est très complexe, hein, parce que tu veux l'Ukraine, il faut se rendre compte que Staline, lui, n'y est pas la nation ukrainienne. Et en fait, il en avait très peur, se méfiait énormément des Ukrainiens, il a tout fait pour les démolir, pour les tuer. Donc, il a affamé la population, 5 millions de morts par la faim, quand même. Quand il pense, c'est hallucinant. 5 millions de personnes qui sont mortes de faim, parce que Staline l'a décidé. Des gens torturés, emprisonnés. Et donc, tu as effectivement Bandera. Donc, quand les nazis rentrent en Ukraine, enfin, les Allemands rentrent en Ukraine, une bonne partie de la population les prend pour des libérateurs parce qu'ils n'en pouvaient plus. Ils n'avaient pas à manger, ils étaient torturés, ils étaient persécutés par les soviétiques. Donc, quand ils les voient arriver, c'est un soulagement pour eux. Et tu as effectivement Bandera, qui est en fait un idéologue nationaliste. Mais tu vois, quand tu regardes sa famille... Alors, c'est vrai que c'est terrible, hein, ce qu'on fait, c'est partisan. Alors, lui, il était emprisonné en général. Il a quasiment pas pris part aux actions, mais il les a justifiés, ou en tout cas, il leur a donné corps, on va dire, par des idées. Et ces partisans, les partisans de Bandera, ont participé aux crimes nazis, la Shoah par balle, par exemple, ont participé au massacre de Polonais à Wołyń, où là, tu as ils ont trucidé des femmes enceintes, ils leur ont ouvert le ventre, ils ont pris les bébés, ils les ont écartelés, ils ont égorgé des bébés, ils ont pris des gens, ils les ont écartelés avec des chevaux. Ça a été, horrible, quoi. Ça a été dégueulasse. Enfin, il n'y a pas de mots, quoi. Mais quand tu regardes, par exemple, la famille de Bandera, pour expliquer la complexité du moment, c'est pas si simple, c'est facile de prendre des positions aujourd'hui. Ses deux frères sont morts à Auschwitz, dans le camp de concentration. Ses deux sœurs ont été déportées par les Russes, enfin, par les Soviétiques, en Sibérie. Son père a été tué par la NKVD. Donc, tu vois, la situation en Ukraine était démente, vraiment complètement démente. Donc, pour répondre à ta question, je pense que Arnaud Klarsfeld a raison. On ne pourra pas intégrer l'Ukraine à l'Union européenne tant qu'elle n'aura pas fait un point sur cette situation, tant qu'on n'aura pas fait un point sur son histoire. Elle ne peut pas nommer des avenues qui s'appellent Bandera, elle ne peut pas avoir des chansons, même si ce n'est pas son hymne, mais des chansons qu'on entend de temps en temps. On ne peut plus tolérer que des gens chantent des chansons à la gloire de Bandera. Ça, c'est certain. Moi, je trouve que... En tout cas, ils peuvent le faire s'ils le veulent, mais on ne doit pas les intégrer à l'Union européenne tant qu'ils le font. Mais qu'aujourd'hui, c'est pas la question du moment. Le pays est envahi, il y a une priorité, c'est de foutre dehors les Russes.
Mais lorsque à droite, on te dit, oui, mais comprenez, les Russes, ils se battent contre le mondialisme, contre les young leaders, contre le Great Reset. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont une forme de libérateurs de ce fameux monde libre contre les mondialistes occidentaux. Toi, qu'est-ce que tu réponds à ces gens? Est-ce que tu dis oui, en effet, ou Quel est ton point de vue là-dessus?
Bah moi, ça m'appelle, d'abord, je vais te répondre, mais d'abord, ça m'appelle un truc. Ça me rappelle les communistes, le Parti communiste français, quand ils nous disaient que l'Union soviétique, c'était le pays idéal, c'était un paradis sur Terre, mais que par contre, il n'y avait personne qui voulait aller en Union soviétique et tout le monde voulait s'en casser. Bah, c'est la même chose. Est-ce que tu vois des gars, tu vois plein de gens de droite qui vont s'installer en Ukraine, en Russie? Non. Est-ce que tu vois plein de Russes se casser? Oui, il y a un million de Russes. C'est le gouvernement russe qui vient de le dire, qu'il y a un million de Russes, de jeunes Russes qui sont cassés. Donc en fait, il doit y avoir 2-3 millions qui sont réellement cassés avec l'invasion en Ukraine. Et pour répondre à ta question, mais la Russie, le pouvoir d'achat en Russie, c'est le pouvoir d'achat d'un Roumain. Il y a trois fois plus de meurtres en Russie qu'en France. Il y a trois, je crois, je sais plus, j'avais les chiffres quelque part, je sais plus si c'est 2 ou 3 fois plus d'avortements en Russie qu'en France. Enfin, je sais pas, moi, réfléchissez, les gars, ça vous dit quelle valeur, mais quelle valeur.
C'est-à-dire quoi, la Russie, c'est pas le pays conservateur qu'on pense ici en France? C'est mais pas le pays qui revient dans la religion orthodoxe, qui.
Mais
qui
est dans il y a personne qui croyant, il y a moins de croyants en Russie qu'en Allemagne. Enfin bon, vous imaginez, l'Allemagne, c'est le pays le plus ultra-progressiste d'Europe. Cyril, le grand patriarche russe, c'est un ancien agent du KGB. Enfin, le patriarche, l'équivalent du pape, si tu veux, pour les orthodoxes, c'est un ancien agent du KGB. Le gars, il a une breguet. Le gars, il vit comme un nabab. Regardez des photos de lui. Il est dans sa voiture. Il a derrière son écusson doré sur des sièges en cuir. Enfin, il vit comme un milliardaire. Il a son yacht. Il a un yacht. Le pape orthodoxe russe a un yacht. Non, mais je pense que les gens ne comprennent pas qu'en fait, la Russie, t'as Poutine qui est un grand chef de la mafia qui se prend tout le pognon avec des grands milliardaires et qu'après le peuple, il faut se rendre compte que par exemple comment le peuple russe vit, t'as que 60% des Russes qui ont à la fois l'eau chaude, le gaz, l'électricité, l'eau courante. Il y a un Russe sur 3 je crois ou sur 4 qui n'a pas de toilette chez lui, qui doit aller dehors dans le froid pour aller chier, pour aller caguer. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte, il y a un Russe sur 3 ou sur 4 qui n'a pas d'eau courante.
Oui, mais ils et sont partis contre, là-bas, après l'année d'été,
on va te dire... Oui, sont, bon, t'as Kadyrov, t'as Poutine et tout ça, toutes leurs bandes Lamborghini qui sont tirées à 20 exemplaires. Donc, en quoi, c'est quoi nos valeurs, ça? C'est quoi nos valeurs quand un empire attaque une nation? C'est quoi nos valeurs quand t'as un gars qui s'allie avec le Mollah d'Iran, qui s'allie avec la Corée du Nord, qui envoie les islamistes? T'as quand même les Tchétchènes qui vont en Ukraine tuer donc des Ukrainiens, donc des Européens, hein, des Européens en plus chrétiens, au son d'Allah Akbar. Ils gueulent Allah Akbar quand ils vont tuer des Ukrainiens. Ben, je sais pas moi, c'est quoi nos valeurs? En quoi c'est nos valeurs? Je vois pas.
Mais alors, du coup, regarde, tiens, j'ai Funeral Cry qui dit qu'il y a une question intéressante, parce que ça c'est très ancré dans l'esprit des gens. Une autre question à poser. Que pensez-vous de l'extension de l'OTAN aux frontières russes depuis la fin de l'URSS? Et pour le coup, on peut comprendre, quand on est russe, que si l'OTAN arrive de plus en plus près de tes frontières, qu'il peut y avoir peut-être qu'ils puissent se sentir en insécurité.
J'ai quand même 5 minutes pour répondre.
Non, mais tu peux répondre tant que tu veux, là, on n'est pas.
Alors, d'abord, l'OTAN, c'est qu'une administration, franchement. Mais tous les gens qui ont participé, tous les gens, moi aussi, tous les gens qui ont participé à des séminaires, qui ont été à l'OTAN, etc., c'est des fonctionnaires. Les gars, ils font du papier. Ils produisent que du papier. L'OTAN, c'est une alliance, d'accord, mais l'OTAN en elle-même, c'est une organisation de papier. Alors derrière, effectivement, il y a les USA qui sont vraiment une vraie puissance militaire. Mais pourquoi Les gens veulent rentrer dans l'OTAN, ils veulent pas rentrer dans une alliance avec la Russie? Et parce qu'ils veulent justement être le plus loin possible, le plus indépendant possible. Ils ne veulent pas que la Russie s'occupe de leurs affaires. C'est pour ça que la Pologne est rentrée dans l'OTAN, parce qu'elle avait peur de la Russie. Pourquoi les Pays-Baltes sont rentrés dans l'OTAN? Parce qu'ils avaient peur de la Russie. Pourquoi la Hongrie est rentrée dans l'OTAN? Parce qu'elle avait peur de la Russie. Pourquoi les Slovaques sont rentrés dans l'OTAN? Parce qu'ils avaient peur de la Russie. Tous ces pays qui rentrent. Pourquoi l'Ukraine voulait rentrer dans l'OTAN? Parce qu'elle avait peur de la Russie. Pourquoi la Géorgie veut rentrer dans l'OTAN? Parce qu'ils ont peur de la Russie. Et pourquoi ils ont peur de la Russie? Parce que la Russie, depuis 4 siècles, les persécute, les torture, les déporte leur population, tue leurs femmes, viole leurs femmes, tue leurs hommes. C'est pour ça qu'ils veulent rentrer dans l'OTAN. Alors oui, L'OTAN est en expansion parce que tous les pays qui sortent de l'orbite russe veulent absolument rentrer dans l'OTAN parce que c'est un peuple de barbares qui, il faut dire la vérité, qui veulent envahir leurs voisins. Donc l'OTAN les protège. Et qu'est-ce que montre l'invasion de l'Ukraine? C'est ça qui est incroyable, ce qu'a fait Poutine en envahissant l'Ukraine. C'est tout l'intérêt de faire partie de l'OTAN. Parce que quand tu fais partie de l'OTAN, bah, la mentalité de racaille de Poutine fait qu'il ne va pas t'attaquer. Alors que l'Ukraine, qui n'est pas dans l'OTAN, il l'a attaqué. Tu vois, il s'est attaqué à la cible la plus faible. Sur les racailles, ils font comme ça. Les racailles ne s'attaquent jamais à quelqu'un de fort. Les racailles ne s'attaquent qu'aux faibles. Et là, il s'est dit, bah, tiens, l'Ukraine, c'est un pays bien faible. Je vais montrer à tout le monde que je suis fort. Je vais montrer au Kazakhstan. Je vais montrer à la Chine, à la Turquie, qui n'ont pas intérêt à essayer de nous grignoter. Je vais prendre le faible de la bande. Je vais lui montrer. Je vais le défoncer. Je vais le détruire. Et comme ça, tous les autres vont se calmer. Ben non, il n'a pas réussi. C'est vraiment une mentalité de racaille. Hein,
mais ça veut dire que du coup, si tu dis que Poutine a une mentalité de racaille, ça veut dire que Poutine ne s'attaquera jamais à la Pologne, je sais pas moi, à des pays européens, et donc du coup, il n'y aura pas la Troisième Guerre mondiale.
Moi, tu sais, quand je fais des analyses, je ne dis jamais ce qui va arriver. Je dis quelles sont les conditions pour que ça arrive. Donc, je peux te donner les conditions pour que ça arrive, mais je ne peux pas te dire si ça va arriver ou pas. Je peux te dire, bah oui, les conditions pour que Poutine attaque la Pologne, il faudrait que la Chine se mette de son côté. Il faudrait que l'Iran commence à attaquer le golfe Persique pour que les Américains soient obligés d'envoyer leurs forces là-bas. Il faudrait que la Chine attaque Taïwan ou un autre endroit en Asie pour que les Américains envoient des forces là-bas. Et donc là, forcément, l'OTAN sera faible. Il faudrait que, par exemple, et c'est ce qu'il fait actuellement, il envoie qu'on n'ait plus de stock. Qui s'arrange pour qu'on ait de moins en moins de stocks, qu'on puisse pas répondre. Là, on sera faible. Il faudrait qu'il envoie des masses, c'est ce qui est en train d'arriver actuellement, de migrants sur la France, l'Italie, venant d'Afrique, plein de migrants venant d'Afrique, je sais pas, 5, 10 millions, pour qu'on soit débordé. Dans ces conditions-là, on sera faible, et effectivement, il pourrait attaquer la Pologne. Ouais.
Tu penses que c'est un scénario qui peut arriver?
Dans les conditions que je te donne, oui, mais sinon, non. C'est pas possible. Attends, mais c'est son armée actuellement, elle est. Même moi, pendant qu'il n'y ait pas une autre opinion, hein, ne pensais pas qu'elle était si nulle, quoi.
Mais c'était évident. Pour le coup, c'était évident. Hein. Moi, je le dis, je veux pas faire l'anti-russe primaire, mais c'était évident. Je vais me le répéter. La Russie n'a jamais envahi seule. Je dis bien seul un pays à l'ouest. C'est jamais fait. C'est comme ça. Et quand ils ont voulu, en 1919, envahir la Pologne seule, ils se sont fait détruire. Et ils étaient à 4-1.
Je pense que les Occidentaux ne se rendent pas compte à quel point la Russie est arriérée. Ouais.
Mais, parce que tu as parlé des crimes russes. OK. Mais. On nous montre aussi les crimes ukrainiens, les crimes de guerre ukrainiens. Et là-dessus, quand même, tu ne peux pas nier la réalité.
Ah bah oui, mais de toute façon, dans toute guerre, effectivement, à partir du moment... C'est pour ça que les Russes ne devaient pas faire la guerre. C'est parce que toute guerre, à un moment, devient ignoble. Mais deux choses, rappelons deux choses. D'abord, si ces soldats russes n'étaient pas entrés sur le territoire ukrainien, donc sur un territoire qui n'est pas le leur... Ben, ils n'auraient pas été victimes, c'est quelques soldats, parce que c'est pas non plus, c'est pas en masse, hein. Il y a eu quelques cas, effectivement, ils n'auraient pas été victimes de crimes de guerre. Et puis, ce qu'on dit pas, c'est la façon dont les Russes font. C'est-à-dire que quand ils rentrent dans une ville, ça, il n'y a personne qui le dit, mais quand ils rentrent dans une ville comme Kherson, Izium, etc., qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des listes. Mais c'est vraiment, c'est une armée du KGB, hein, c'est l'armée rouge. Ils ont des listes des gens qui ont combattu dans le Donbass. Donc, quand ils disent qu'ils viennent des nazifiés, c'est vrai. Ils viennent avec la liste des noms des gens, des anciens soldats qui ont combattu dans le Donbass. Et donc, quand ils les trouvent pas, quand ils les trouvent, ben, ils les emmènent, ils les torturent, etc. Et quand ils les trouvent pas, ils s'en prennent à leurs femmes. Ils les violent, ils leur cassent les dents. Ils leur cassent les dents. Ils les violent, ils leur cassent les dents. Ou leurs filles. Donc, toi, quand t'es soldat ukrainien, tu sais ça. Qu'ils ont fait ça, ces gars-là. Que tu les chopes. C'est quand même compliqué d'être sympathique avec eux.
Bon, c'est sûr, c'est la guerre. Bon, après la guerre, faut dire les choses. Il n'y a pas de guerre. Bon, enfin, bref. Mais bon. En tout cas, merci beaucoup, cher Patrick. Merci. On a passé 2 heures ensemble, t'as vu, hein. T'as pu tout dire. Voilà. Voilà, parce que ce que d'autres n'ont pas, ne t'ont pas laissé faire. Hein,
exactement.
Voilà. Voilà. Merci beaucoup, cher Patrick. On a pu parler
pendant deux heures. Merci à toi, Mike.
Et voilà, l'objectif, vraiment, c'est que tout le monde puisse avoir la parole. Et parce que c'est ça, la liberté d'expression, c'est que les gens aient la parole. Hein, voilà. Merci beaucoup. Passez tous une excellente soirée. Et demain midi, eh ben, ce sera juste milieu, le YouTuber juste milieu. Est-ce qu'il fallait aller à la Coupe du Monde au Qatar? Est-ce qu'il ne fallait pas boycotter la Coupe du Monde du Qatar? Merci à vous. Passez une bonne soirée. Et merci. À demain. Salut, ciao.
Ciao.